Ah oui, il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 222, un épisode palindrome s'il en est. Et de l'autre côté du poste, de l'autre côté de la France, de l'autre côté du golfe de Savoie, tel qu'on l'appelle maintenant, il y a Stéphane Boulet. Hello Stéphane, comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, et je suis pour effectivement rebaptiser le lac Léman en golfe de Savoie, parce que ça me semble quand même être la moindre des choses.
Le problème c'est que cette obsession du golf, tu sais, c'est vraiment, c'est pas que c'est un sport que je t'aime pas, hein, mais si toi tu renommes un truc golf chez toi, c'est que vraiment vous allez faire des trous dans le sol en fait, c'est ça.
C'est ça.
C'est pas de l'eau, hein. Comment ça va, Stéphane ?
Bah écoute, ça va, effectivement, pour cet épisode palindrome, mais presque. Ma foi, je navigue, je jongle entre les grippes de tout un chacun. Mm-hmm. Puisque à ce moment, voilà, tu n'es pas sans ignorer que là, la France est touchée par une épidémie de grippe et que globalement, les enfants sont un vecteur assez privilégié pour ce genre de maladie à la con.
Ouais. Et tu n'as pas été malade ?
Non, alors j'étais malade, mais gentiment, c'est-à-dire que j'avais des symptômes légers, mais pas tous en même temps. D'accord. Ce qui fait que globalement, j'étais malade pendant 3 semaines d'affilée, mais sans être suffisamment malade, tu vois, le truc où juste t'es pas bien, quoi.
Alors... puisque tu dis ça, le problème c'est que moi je pars en vacances avec mon fils.
Ah oui.
Donc du coup, il va être avec d'autres enfants et il va forcément, je le sens arriver gros comme une maison. Déjà ce soir j'étais un vernissage et tu sais il y a une personne sur deux qui disait non je fais pas la bise, je suis malade. Ce qui est très pratique. Hein. Tu sais j'aime bien en fait. Je suis pour les brofistes. Mais tu sais quoi, je sentais que non je vais pas rester trop longtemps ici. Ça sent le sapin, comme on dit.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est un hiver où globalement, voilà, le seul ski que j'ai fait pour l'instant, c'était entre les virus, quoi.
Stéphane.
Daniel.
Que devient Jean Castex ?
Ben je crois qu'il est toujours président de la RATP, il me semble. Hein.
Il n'y a pas été entendu aujourd'hui. Je dis ça parce que, en fait, je prends le dernier moment dans l'actu et je le répercute sur le début de l'épisode, comme ça il y a un point.
Alors, pourquoi Jean Castex fait l'actu aujourd'hui ? C'est ça ma question.
Ouais,
en fait.
Je crois que Jean Castex, je crois qu'il a été entendu pour une histoire de financement occulte ou quelque chose comme ça, mais il a été complètement. Il a juste été entendu, et tu sais quoi ? Tant mieux, parce que je sais qu'à quel point il compte pour toi. Qui est maintenant ton ministre de tutelle ? Parce que je sais, j'ai pas suivi en fait, j'arrive plus à suivre.
C'est Elisabeth Borne.
Ah oui, c'est vrai que c'est Elisabeth.
Et c'est même pas une vanne. Hein. C'est... Vraiment, je préférerais que ce soit une vanne, mais non, non.
Mais écoute, pour les lycées... Tu te souviens, ma ministre de l'éducation préférée, c'était celle d'avant, les JO, là.
Oudéa Castéra ?
Ouais, celle-là, elle était on fire, j'en sais ce que je...
C'était la meilleure.
C'est franchement, tu sais quoi ?
On l'appelle l'étoile filante dans le milieu.
Quand tu arrives à regretter cette personne, tu dis c'est le niveau. Bon, voilà, blague à part, on enregistre à la veille de la Saint-Valentin. Tu sais que la Saint-Valentin, c'est quelle date ? Juste test comme ça, quiz.
Bien sûr. On est la veille, donc c'est demain, donc ça va être le 14.
Bien vu. Non, tu l'as fait par ordre logique, tu l'as fait juste par logique, tu sais pas du tout.
Exactement,
en fait.
Moi je...
Oui, t'es pas ce genre là, toi. Stéphane, on est dans les années 80.
10. Non,
non,
10, 80.
80.
Ouais, bah, moi j'ai rien suivi, moi.
Pour nous envoyer des listes, on fait quoi, Stéphane ?
Eh bien, pour nous envoyer des listes, c'est très simple. Vous choisissez 3 films par liste dans les années concernées. Vous les mettez dans une petite liste avec un petit titre, voilà, de préférence, parce que c'est toujours plus sympathique pour attirer l'œil du chaland. Et puis, vous envoyez tout ça à supercinébattle@gmail.com. Voilà, avec un peu de chance, ça n'arrivera pas dans le golfe d'Amérique, mais sur la boîte mail de l'émission. Et si la liste attire l'œil de Daniel, l'œil malicieux même, devrais-je dire, de Daniel, eh bien, peut-être aura-t-elle une chance de passer et de pouvoir contribuer au marbre.
L'œil malicieux, j'aime bien ça.
c'est
vraiment ce qui nous définit, hein, les yeux malicieux. Stéphane, qu'est-ce qui nous est arrivé dans l'épisode précédent, à savoir le 221?
Le 221, je crois qu'on a, on a parlé beaucoup de coups de pied sautés et de ninja. Voilà, c'était une thématique très ninja.
Où on est arrivé à milieu d'épisode, tu m'as dit « Non mais, file-moi des bons films quand même
!» C'est ça.
En hommage à Invasion USA, qui est 175e.
Oui.
Tu sais quoi, Invasion USA, je suis sûr que tu le montres aujourd'hui aux États-Unis, les gens ils y croient quoi.
Ah bien sûr, ils pensent que c'est un documentaire. Mais c'est sûr. C'est sûr.
158e Best of the Best, pas un mauvais film du tout.
Pas un mauvais film, effectivement, voilà, film très, très dans les canons de son époque. Effectivement, voilà, film de Kumite, très dans les canons de son époque, avec ce que ça implique en termes de qualité de défaut, mais avec finalement plus de qualité, on va dire, attachante que de défaut. Voilà.
Ah, je vois qu'il est au-dessus de Jamais Plus Jamais, mais surtout, il est au-dessus de Star Trek 2.
Eh oui, eh
je
oui.
Je sais pas comment. Bah, Star Trek 2, c'est vraiment.
Attends.
C'est surtout la fin, en fait, de Star Trek 2 qui.
Voilà, c'est ça. Et puis surtout en combat singulier, à un moment donné, excuse-moi, mais Spock, il se fait étaler, quoi.
Alors, faut je suis désolé. Honnête. Si tu es. S'il a l'avantage de la stratégie, Spock gagne.
Avantage de la stratégie. Non, mais. Le mec, il s'est cru dans Fire Emblem, tu sais.
Bah, Spock, son truc, c'est de paralyser les gens.
Certes.
Et donc, il faut qu'il passe par derrière, titre. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça tout le propos de Spock, c'est qu'il est super balèze en fait, Spock.
Yeah, mais c'est un sournois. C'est ça,
dans le crossover X-Men Star Trek, il paralyse Wolverine parce qu'il lui fait la prise par le cou et hop il l'endort.
Ah là là. Ah mais j'ai pas ce niveau de nerdy tricky. Ouais. Ouais.
c'est un comics. 274e, il y a eu American Ninja.
Oui, c'est ça. Pour lequel on a eu toutes les peines du monde à remettre dans la chronologie des ninjas. Voilà, parce que faut dire ce qu'ils se ressemblent un peu tous, hein, sans vouloir être.
C'est l'uniforme, rappelle-toi, c'est l'uniforme.
C'est ça, c'est l'uniforme. C'est exactement.
En même temps, c'est tous des ninjas blancs.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, c'est 279, Mac et moi, un grand film.
Oui, exactement. Voilà.
Et 285, Parking, qui est quand même en pénultième.
Ouais, c'est ça, mine de rien, bravo Francis Huster une fois de plus.
Francis Huster. Et encore, Francis Huster a quelques bons films à faire valoir dans cette décennie quand même.
Oui, il n'a pas fait que Parking, mais pour l'instant, voilà.
Est-ce qu'honnêtement, sa carrière, la carrière ciné de Francis Huster, c'est pas une catastrophe quand même?
Bah,
entre
plus...
ça et les Claude Lelouch.
En plus, Francis Huster, globalement, les rôles qui me reviennent, c'est souvent des seconds rôles plus que... Enfin, tu vois, quand il fait le connard dans le Dîner de cons, il est très bien.
Ah oui, c'est vrai, il y a Dîner de cons.
Voilà, mais c'est plus des seconds rôles, en fait, finalement. Je crois que Francis Huster n'est pas un first role matériel, comme diraient les gens Hollywood.
Les gens Hollywood, dont on parle beaucoup, puisque c'est la course aux Oscars bientôt.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que t'es un peu impatient?
Pas du tout.
T'es pas du tout à jour en plus.
En plus, voilà, ce que j'ai à dire, c'est que globalement, dans les favoris, j'en ai vu aucun. Donc là, pour le coup, cette année, je suis complètement à la ramasse.
Attends, les favoris, t'as pas vu Anora?
J'ai pas vu Anora, j'ai pas vu Emilia Perez. Voilà.
Alors, newsflash, Emilia Perez n'est plus favori.
Je
sais pas si t'as eu le mémo.
Oui, j'ai cru comprendre que globalement il y a eu ce qu'on appelle une explosion en vol de la part de l'actrice principale.
Il y a une explosion en vol, une Kanye West comme on dit, tu vois, dans le milieu.
Oui, mais alors c'est ça le truc, c'est que là aujourd'hui ça pose problème, mais dans les Oscars dans 2-3 ans finalement ce sera peut-être justement ça qui te permettra d'avoir l'Oscar. Tu sais pas,
oui peut-être. Mais alors, attends, tu sais quoi, j'ai la liste devant moi, on va... Est-ce que t'as pas vu Anora, t'as pas vu Brutaliste, moi non plus.
Non, bah en même temps, Brutaliste, il est sorti là. Enfin, il est sorti hier, quoi.
Il est sorti hier et il dure 6 heures.
Ah ouais ?
Non, mais 4, oui.
Ah ouais, bah je sais pas. Non, mais alors, moi, j'aimerais bien voir Brutaliste, mais je ne sais même pas s'il passe près de chez moi. Donc, ça, c'est, c'est une vraie difficulté.
Tu sais quoi, je ne parierais rien de précieux là-dessus. Il dure 215 minutes.
D'accord, ok.
Mais honnêtement, j'ai envie de voir Brutaliste.
Mais moi aussi, je suis très très curieux, ouais.
Il y a Complete Unknown, donc le James Mangold.
Ah, le truc sur, sur Bob Dylan, d'accord.
Sur ouais. Pardon, non, sur je cherchais, sur Calogero. Un jour, il y aura des biopics sur Calogero. Non, oh, t'imagines, il y aura des biopics sur Vianney, ton poteau.
Ah, incroyable. Et tu sais comment est-ce qu'il s'appellera, ce biopic? Il s'appellera L'eau tiède.
Si ça gêne, c'est la même. Conclave, t'as pas vu?
Si, Conclave, j'ai vu.
Ah, c'est bien.
Ouais, c'était bien, Conclave.
Dune part 2.
J'ai vu, c'était bien aussi.
Alors, tu veux que je te dise le problème des Oscars aujourd'hui? C'est que avant les Oscars, c'était 5-6 films la sélection. Grand maximum. Maintenant, ils te mettent tout.
Ouais, ils te mettent tout le monde. Ouais.
Ils mettent tout le monde pour que tout le monde soit content. Emilia Pérez, donc bon.
Pas vu.
Désolé pour eux. Mais pas désolé parce que j'ai pas aimé le film. I'm Still Here.
Ça me dit rien, ça.
C'est... Ah putain, il faut que je le voie. C'est le Walter Salles.
D'accord, ok.
C'est le Walter Salles. Et je crois qu'il passe encore à Paris, en fait. À Paris, viens à Paris pour voir le film. Walter Salles. Il y a Nickel Boys aussi.
Nickel Boys, c'est rien à voir avec Nickelback, du coup.
Non, rien à voir. J'ai pas vu Nickel Boys du tout. Je suis désolé, voilà. Mais par contre, j'ai vu The Substance, toi aussi.
Ah oui, The Substance, ouais, j'ai vu. Ouais.
Et Wicked, Wicked en meilleur film.
Ok.
Sais quoi, ça se tient, pour plein de gens, c'est le meilleur film, mais est-ce qu'il fallait pas être un chouïa plus sélectif?
Je sais pas, effectivement.
Là, à ce moment-là, on demande à tout le monde d'être là, quoi.
Mais en fait, le problème, c'est que Life After Fighting n'est pas sélectionné. Moi, je trouve ça c'est un scandale, quoi.
Tu sais que je l'ai vu grâce à toi.
Ben, bien sûr.
C'était mon premier film de l'année, c'est puisqu'il est sorti le 31, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Et tu sais quoi? C'était très satisfaisant.
Voilà, exactement. Ben, je suis content en train de dire ça.
Je pense que c'est le meilleur film avec râpage de visage sur vitre cassée. C'est très spécifique, hein. S'il y a l'award du meilleur râpage de visage sur vitre cassée.
Bah c'est Life After Fighting, il le gagne au la main. On est d'accord.
Et tu sais quoi? J'aime la intrinsèque simplicité de cette histoire, quand même.
Bah oui, voilà. C'est que...
Genre, les méchants, ils sont vraiment méchants. Et j'ai un truc que je trouve génial, c'est que le méchant, mais qui sait pas se battre, là, le vrai méchant,
oui,
le boss,
oui,
il a un petit côté Jesse Plemons.
Oui, c'est vrai.
Il a un côté, tu sais, genre, maintenant, depuis Jesse Plemons, ils disent, si c'est un fils de pute, il faut qu'il ressemble à Jesse Plemons.
C'est vrai.
Qui était Jesse Plemons dans Civil War? Civil War, pas nommé.
Mais bien sûr qu'il était dans Civil War. Enfin, c'est sa scène. Quel genre d'Américain es-tu, quoi? Oui. C'est un incroyable moment.
Tu connais, enfin, les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être suivi la fabrication de Civil War, le savent peut-être. C'est son épouse Kirsten, oui, Dunst qui a dit, on cherche quelqu'un. Et genre, il n'était pas crédité. Il n'est pas crédité au film, en fait.
Ah ouais, j'ai pas fait gaffe.
Il est pas crédité et il s'est pointé avec son personnage dans sa tête avec les lunettes rouges, c'est lui, et il a presque ad-lib, quoi, tu vois, il avait pas besoin de le pousser pour faire un bâtard. Mais franchement, il est quel super acteur.
Ouais, c'est excellent acteur.
Bon, avant qu'on commence, puisque je l'ai devant les yeux, Adrien Brody pour Brutalist, Timothée Chalamet pour Complete Unknown. Coleman Domingo pour Sing Sing, ça doit être super, je sais pas. Ralph Fiennes pour Conclave et Sébastien Stan pour The Apprentice. Est-ce que t'as vu The Apprentice?
Non, toujours pas non plus.
Je pense pas qu'il l'aura, mais franchement, Sébastien Stan mérite, il est vraiment super.
Le problème, c'est que si tu veux, en ce moment, je suis un petit peu à saturation de Donald Trump, si tu veux, donc je pense que The Apprentice, voilà, je vais y aller doucement avant de le voir, quoi.
C'est la différence entre toi et moi, c'est que moi, je l'ai vu...
Oui, toi, tu l'as vu.
J'ai vu à Cannes. J'ai vu à Cannes, tu vois. En mai, je me souviens, on était avec Jérôme, on dit, les gens pourront pas voter pour lui après ça.
Et bien
les Américains font pas au cinéma, mon gars. Bref, ouais, non, c'était. Mais non, super film, honnêtement. Tu veux que je te hype The Apprentice en une phrase?
Dis-moi.
C'est un numéro The Origins de Succession.
Il y a Jeremy Strong qui joue.
Il y a Jeremy Strong et Jeremy Strong va te faire Sad Face in New York Street. Et tu sais qu'il peut très bien le faire.
Est-ce qu'il écoute du hip-hop pour se motiver dans la voiture? C'est ça que je savais.
Non, mais et tu sais que Jeremy Strong, il est nommé en Best Supporting Actor.
Ah, pour The Apprentice.
Ouais. Ah, tu sais quoi? S'il y a tous les deux, mais champagne. Mais pas de politique dans mon cinéma. Peut-être une phrase qu'on va entendre au cours de cet épisode. Hein.
Peut-être. Je ne sais pas de quoi on va parler, donc peut-être. Hein.
C'est vrai que notre camarade ne sait pas de quoi on va parler et je vais te sortir une liste que j'ai sélectionnée.
Allons-y.
C'est une liste d'un auditeur qui s'appelle Maxime Stoll. Et là, en ce moment, je me fous le pas, je regarde ce qui... les listes de la dernière semaine. Hein.
C'est, bah, écoute.
Je sais pas pourquoi, c'est genre la dernière semaine, et je regarde ce qui m'inspire, et Maxime Stoll m'a inspiré.
Eh bien écoute, Maxime Stoll, tu as envoyé ta liste au bon moment, comme quoi ça tient à pas grand-chose.
C'est une liste qui s'appelle Nationalism Goes Wrong.
Ah. Alors, j'ai presque envie de dire Nationalism Goes As Plan, hein, quelque part.
Et tu sais quoi, je vais le lire, c'est rare, mais je lis un peu le linkwipit de sa liste. En ces temps troublés où l'extrême droite nomme accidentellement leur opposant à la tête du FBI, voici une liste de gens très très à droite, qui ont des problèmes. Pas de politique dans ma liste, nonobstant. Bah écoute, moi, je pense propre.
Exactement. Propre. Voilà, ça joue. Mm.
Et le premier film de sa liste, et je sais que tu l'as vu, c'est Surf Nazi Must Die.
Évidemment que j'ai vu Surf Nazi Must Die.
Surf Nazi Must Die, pour lui, c'est dans sa tête, hein, dans la tête de j'explique aux auditeurs qui ne coteraient pas que c'est un premier épisode, c'est un alexandrin.
C'est ça, exactement.
C'est comme un SNES, c'est genre, oh, la belle sonorité des mots, je vais le regarder. Et tu sais quoi,
c'est un écho, tu sais.
Et tu sais quoi, moi j'ai fait pareil. Quand j'ai vu, moi, Surf Nazi Must Die, mon premier contact, c'était en fait c'était un film trauma, mais derrière il y avait toutes les bandes annonces trauma.
Oui.
Et ensuite il y a eu la bande annonce, je pense que c'est une des meilleures bandes annonces de tous les temps, hein, quand il fait Surf Nazi Must Die. voilà, j'ai un peu résumé un peu le film, mais
t'as même carrément résumé le film, hein, c'est-à-dire que tu as dit que c'était un film trauma, tu as dit que la bande annonce était super. Et globalement, quand même, c'est un peu
le problème des films trauma.
C'est un peu le problème de beaucoup de films trauma, à part le premier Toxic Revenger et deux, trois exceptions. C'est globalement, c'est des mecs qui avaient quand même un certain don pour te vendre leurs films, mais pas un don certain pour les faire derrière. Voilà,
oui, ça comme ça. Pour resituer les gens qui... Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de trauma, je crois pas. Hein.
Non, bah, on a fait le premier Toxic Avenger.
On a fait Toxic Avenger peut-être. Il y a Sergeant Kabukiman PD. Ça, oui. c'est vraiment un classique. Il y a Troméo et Juliette. Toxic Avenger, il n'y en avait pas plusieurs en plus ?
Si, Toxic Avenger, il y en a eu plusieurs. Puis en plus, il y en a eu un, enfin récemment. Mm. Quand je dis récemment, c'est...
Il y a eu un DJ Toxic Avenger, on l'embrasse. Je ne sais pas s'il nous écoute. Mais...
on ne sait jamais.
Non, mais tu sais quoi, on est devenu pen pal, on s'écrit régulièrement.
En fait,
on a des
beau.
Origines russes tous les deux, donc tu sais comment ça fait un peu les alcooliques anonymes. Ah, toi aussi. Hein.
Vous répartissez l'Ukraine entre vous, c'est ça ?
Ah, t'es con. T'es con. Bon, bref, je l'embrasse. Donc trauma.
Voilà.
Trauma, c'est jamais ouf.
Trauma, c'est une personnalité, c'est Lloyd Kaufman en fait, qui est le fondateur, producteur de pratiquement tous les films, je crois aussi scénariste d'un bon nombre, enfin scénariste, c'est vite dit, mais voilà, globalement, d'un bon nombre d'entre eux, voilà, c'est un personnage un peu mais hors norme, on va dire.
Il a réalisé plusieurs films aussi. Hein.
Oui, il a réalisé plusieurs films lui-même, ouais, tout à fait. Voilà, c'est un personnage un peu hors norme, voilà, qui porte la marque trauma sur ses épaules aussi, voilà, une époque où globalement justement l'explosion de la vidéo, du marché de la vidéo et donc du coup des marchés des films dans les différents festivals, voilà, était un business vraiment vraiment florissant. Bah voilà, il avait cette espèce de gouaille où il débarquait un peu comme le nouveau Roger Corman mais encore plus fauché, voilà. Et ces films, voilà, c'est des films qui sont faits globalement sur des pitchs griffonnés en coin de table, voilà, pas toujours avec énormément d'argent, oui, mais surtout avec énormément de soins. Voilà, c'est des trucs un peu bricolés. Et ce faire Nazi Must Die, c'est carrément ça, en fait. C'est-à-dire que vraiment le pitch qu'on te vend. D'avoir des nazis surfeurs en train de mourir,
c'est exactement ça,
et en même temps c'est un peu survendu parce que quand même c'est un film qui n'a jamais le rythme ou le panache qui mériterait d'avoir, quoi.
Pourtant c'est un film d'une heure et demie.
C'est, mais même moins, je crois. Dans mon souvenir, c'est genre un film d'une heure et quart, quoi. C'est un film d'une heure et quart, mais...
C'est des films pitch. C'est des films malins avec les moyens qu'ils ont. Ça dépasse jamais vraiment la blague, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça dépasse jamais vraiment la blague. C'est, puis, comme dit, en fait, c'est ça qui est de décevant quelque part, parce que je pense que globalement n'importe qui, quand tu leur promets un pitch comme Surfer Nazi Must Die, enfin en tout cas même pas un pitch, un titre comme Surfer Nazi Must Die, ils se disent bon ben voilà, ça va être rigolo et tout. En fait le problème c'est que c'est plus ringardos que vraiment rigolo en fait.
Non mais tout, c'est un film d'exploitation. Enfin il y a les filles en bikini. Il y a beaucoup de gore, mais beaucoup de gore, mais genre au niveau
gore typos, hein, voilà.
C'est gore typos, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est genre c'est du sang qui chicle, t'es des membres coupés. Et puis on l'a même pas dit, mais c'est un film post-apocalyptique puisque ça se passe dans une États-Unis ruinée et du coup il y a les néo-nazis qui arrivent sur la plage et qui prennent contrôle de la plage.
C'est ça. Bah, en fait, globalement, tu sais pas exactement pourquoi, mais la plage est une espèce de zone visiblement stratégique pour cette humanité à la dérive. Et voilà, il y a plusieurs entités qui vont se battre pour le contrôle de cette plage. Très clairement, il y a une volonté de surfer. sur la vague de beaucoup de choses, notamment sur la vague de The Warriors, sur la vague aussi un petit peu des films de surf des années 70, puisque tu l'as dit, c'est un film post-apocalyptique, donc on va voir ces espèces de gangs identifiés avec des looks un peu improbables, avec des chapeaux, etc. Et les fameux nazis, enfin littéralement, en fait, faut vous imaginer que c'est des types avec des combinaisons néoprènes sur lesquelles ils ont pris une bonbonne de peinture rouge, ils ont fait une croix gammée, quoi. et c'est littéralement ça, hein.
Oui, c'est pas, on va dire, l'exactitude, c'est pas le truc qui est.
Voilà. Ouais. Donc t'as des enfants nazis à Crète aussi.
Mais c'est vraiment une représentation. C'est très au couteau de Loken. Hein. C'est vraiment, ils sont ridicules.
Voilà, c'est un peu comme justement là, je pense dans les années 80. Mais vous reprenez un peu le cyborg de Jean-Claude Van Damme et vous rajoutez des nazis dedans en fait. Ouais. c'est un peu le délire.
Il y a un chef de gang qui se prend pour Hitler.
Ouais, bah qui se fait appeler Adolf d'ailleurs, je crois.
Tant qu'à faire.
Je sais plus, mais voilà, mais il se prend pour Hitler effectivement, voilà.
Et alors il y a un plot hein, quand même. C'est qu'il y a un flic au début qui est assassiné, qui est noir, et il y a sa mama qui décide de... Mama Washington. Et Mama Washington, j'ai toujours cru que c'était une référence à Martha Washington de Frank Miller, mais possible ou pas, je ne sais pas.
Mais apparemment pas forcément.
Mais je pense pas qu'ils aient beaucoup réfléchi au nom qu'ils prenaient. Et donc Mama Washington décide de défourailler les nazis à coup de shotgun. Et si possible, de les éclater à la grenade, parce qu'elle a l'air de beaucoup aimer ça. Et honnêtement, comme on le raconte, c'est plus fun. Hein.
Oui, c'est plus fun.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de temps mort. Il y a aussi, il faut dire un truc, c'est que... c'est pas joliment filmé.
Ah non, non, non.
C'est pas joliment filmé, mais en plus, si vous êtes un petit peu précieux des oreilles, genre... la prise son est c'est catastrophique hein, pour...
ouais non globalement enfin
du point de vue qu'on appellera pudiquement craft making, c'est un film tourné à la VHS à la cassette et qu'ils ont monté eux-mêmes hein.
Ah oui non mais je pense qu'on est là et en plus enfin ce qui est dérangeant c'est de dire que comme t'as bien résumé le pitch c'est que de ce pitch là finalement ils vont pas en faire grand chose, c'est-à-dire que le film va vraiment s'étirer pour essayer de choper les 1h20, c'est-à-dire que il y a beaucoup de séquences avec des dialogues interminables ou des gens qui marchent dans des espèces de couloirs en béton au bord de plage. Enfin,
Y a des moments où tu te dis pourquoi on nous montre ça quoi. Qu'est-ce que je fais là et je dis qu'est-ce qu'on fout là alors que j'ai vu Captain America Brand New World.
C'est Taroko donc on parle pas voilà, de divulgation.
Non, c'est vrai. Mais tu sais quoi, j'étais avec Jérôme, on se dit mais Je dis, mais pourquoi je regarde ça, quoi ? Il y a des moments, vraiment des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? C'est nul. Pardon, merde, faut pas que je divulgue, mais voilà. On va, il va être classé très haut, je pense, dans les attentes. Oh là là, je l'attends avec un
grand impatience. Oh là, mais voilà, mais du coup, en fait, voilà, le problème de Thirteen Reasons Why, c'est que c'est un film qui est quand même globalement toujours, mais vraiment à chaque séquence, vraiment en deçà de son pitch et ses promesses, quoi. Mmh. Et tu vois, c'est même pas un bon candidat pour une soirée à Narland, en fait, parce qu'il a pas de rythme du tout. Voilà, il y a vraiment ce côté léthargique du montage qui fait que c'est... Voilà, c'est...
Et puis surtout, Nanarland, quand ils font des nanars, ils sont pas conscients d'être un nanar. Eux, à aucun moment, ils se posent de doute sur le fait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'un nanar.
Bah, je pense que là, en fait, si tu veux,
ils n'y mettent pas... je pense que, autant Kabuki Man ou Toxic Avenger... Il y a l'illusion que c'est vraiment du bon cinéma. Là, il n'y a pas genre...
Bah, en fait, il y a un truc, c'est-à-dire que ce qui démarre, par exemple, effectivement, Toxic Avenger de ça, c'est que Toxic Avenger, il y a quand même plus de soins, déjà, très clairement, en termes de mise en scène et ne serait-ce que de montage, etc. Il y a beaucoup plus de soins dans Toxic Avenger. Il y a quand même plus d'intention dans Toxic Avenger, c'est-à-dire qu'effectivement, là, le pitch de la mama qui va défoncer des nazis, en fait, pendant les trois quarts du film, tu vas juste avoir des gens qui se font des wads sur la plage. Enfin, tu vois, c'est quand même pas la promesse. Voilà. Toxic Avenger arrive quand même à faire quelque chose en ayant conscience d'être du cinéma fauché, mais à proposer quelque chose quand même qui se tient, qui a une personnalité, qui a quelque chose. Enfin, voilà, c'est pas le film du sexe, mais il y a quelque chose. Là, très clairement, c'est un film qui a été fait, mais vraiment par-dessus la jambe. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le domaine du foutage de gueule. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans le fond de catalogue de Troba, en fait. On est vraiment sur le truc où ils se sont dit, ouais, bon, bah, ok, ça, on a rejeté un titre de plus au catalogue, mais c'est tout, quoi. Il y a vraiment pas ça, et c'est-à-dire qu'effectivement il y a pas cette espèce de volonté de proposer un truc un peu marrant, un peu excitant ou quoi que ce soit, ou même qui se voudrait sérieux, etc., qui permettrait d'être pris au troisième degré. Voilà, là on est vraiment dans une catégorie où vraiment le film est pas bon, quoi, du tout.
On va peut-être le classer finalement.
Bah oui.
Et d'ailleurs il y a un truc, c'est qu'ils ont jamais fait deux. Alors que Toxic Avenger,
oui, il y en a 4-5, ouais.
Voilà, genre là, ce qu'ils se sont dit, non, celui-là, c'est... Bah, Kabuki Man, je me demande s'il n'y en a pas qu'un seul.
Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, en tout cas, moi, ça ne s'amuse pas, voilà.
Mais ils se sont dit, là, par contre, non, il faut que ça reste une unité. c'est trop bien. Bon, où est-ce qu'on va le classer ? Je trouve ça moins bien que... Samurai Cop et Piège Mortel à Hawaï.
Ah oui, bien sûr. Ah oui,
et il faut que je vous dise un truc, par contre.
Samurai Cop et Piège Mortel à Hawaï, au moins, ils sont vachement... Enfin, ils sont vraiment fun, quoi.
Ils sont 225e. Il faut dire un truc, c'est que, par contre, le trailer est génial.
Oui,
le trailer est super parce qu'il passe... Il dure assez longtemps, en plus, c'est 3 minutes de trailer, enfin, c'est long. Mais il est bien rythmé, il est bien... La voix, elle est super, enfin, vraiment, c'est... Tu te dis, ah, c'est vraiment le film que j'ai envie de voir. J'ai fait l'erreur, j'ai vu que le trailer d'abord, quoi.
Ouais, non, mais ils savent vendre leur truc, ça, c'est pas... Ça, on l'aura jamais... Alors, du coup, tu vois, la question par rapport à Cyborg, en fait, qui est 275.
Non, c'est...
Tu vois, moi, j'ai envie de dire, dans Cyborg, il n'y a pas de nazis.
Ouais, ouais.
Alors, les personnages ont des noms de guitare, mais il n'y a pas de nazis, quoi.
Mais ça peut pas aller au-dessus de Cobra.
Ah non, Cobra, c'est vraiment mieux.
C'est pas une phrase que j'ai entendue longtemps de ta bouche.
C'est clair. Non, Cobra, c'est vraiment beaucoup mieux. Firefox, c'est même mieux.
Firefox, c'est beaucoup mieux, oui.
Ne réveillez pas un flic qui dort, c'est quand même vachement plus drôle aussi. Quand même.
Ouais.
Faut dire ce qui est.
La fièvre au corps, je sais pas.
Et non, je pense que je préfère American Ninja, en fait. Écoute, on a calmé American Ninja.
On avait classé la fièvre au corps.
Eh ben, à l'épisode 50, eh oui, je le sais parce que c'est marqué sur le document, oui, je me souviens absolument pas.
Ah non, mais attends, pas, ok, d'accord, c'est le Laurence Kasdan, hein, c'est le...
Oui.
C'est le William Hurt. Ouais.
Donc, moi, je propose de le mettre entre American Ninja et Cyborg, en fait, tout simplement.
Je regarde par ma fenêtre, il fait nuit noire et tout ça, et j'étais en train de me dire... Le diable au corps ? En fait, non, pas du tout. J'étais pas du tout dans le bon...
C'est pas le bon titre.
Ouais, Bon, écoute, tu le dis entre quelle place et quelle place ?
Entre American Ninja et Cyborg, en fait, 275e.
Ah, Cyborg redescend encore. Cyborg. Ouais. Surf, nazi, c'est nazi sans S. Hein.
Si, c'est nazi avec un S. Parce qu'ils sont plusieurs.
Must die. Ok, oui, comme les ninjas.
Voilà.
Okay. Bon, écoute, premier film politique classé.
C'est ça.
Le deuxième film de cette
alors,
liste.
Alors, je veux dire, point de vue politique, parce que c'est important quand même d'exprimer la neutralité de Super Ciné Battle sur le sujet, c'est que là, on parle de la mort de nazis surfeurs qui doivent mourir. C'est pas restrictif, hein. Tout type de nazi mérite de mourir, il n'y a pas que les surfeurs. Voilà. C'est important de le préciser.
Oui, et c'est un peu le propos du film aussi.
C'est ça.
Toute sa beauté. Le deuxième film, alors tu as un changement d'ambiance absolu. J'espère que tu l'as vu, c'est un film de Paul Schrader qui s'appelle Mishima.
Mishima, et non, je ne l'ai pas vu.
Ah bah écoute, il te reste un...
Un Paul Schrader, mais j'en ai quelques-uns.
De Paul Schrader, mais Paul Schrader, il a quand même été productif dans sa vie. Paul Schrader, rappelons-le, enfin, est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Taxi,
voilà, driver,
gigolo, bulle.
Voilà, c'est ça.
Enfin, je veux dire, il a quand même pas mal...
C'est son documentaire, c'est ça, hein, du coup
Mishima ?
Ouais.
Non, c'est une fiction.
C'est une fiction ? Ah d'accord, ok. Parce que j'ai
c'est une fiction avec Ken Ogata dans le rôle de Mishima. Ken Ogata qui a joué dans la balade de Narayama qu'on a déjà classée.
Ok. Non, je l'ai jamais vu. Je ne sais même pas si il doit se trouver peut-être aujourd'hui. Remarque, il a peut-être
été... Alors, je peux te l'avoir sans problème.
D'accord, ok.
Si c'est ça, de l'avoir sans problème. Bien sûr, en version légale, Stéphane.
Tout à fait, ouais. Bien sûr.
Non, et en plus c'est un film qui a eu un prix à Cannes et tout. Bon bah écoute, l'épisode se raccourcit encore un peu plus à cause de toi, Stéphane.
Évidemment.
Le troisième film est un film de Sidney Lumet. Et alors tu sais, alors, tu vas voir la rigolade, on est allé, on passe de Mishima, hein. Parce que Mishima, évidemment, tu peux savoir que ça se termine bien, évidemment.
Oui,
tu sais.
Bah évidemment.
Le troisième film, c'est Les coulisses du pouvoir de Sidney Lumet.
Les coulisses du pouvoir. Alors c'est quoi son titre en
Power.
Power. Oui, c'est vrai. J'aurais dû m'en douter.
Mais je crois que c'est Power. Ouais, il y a pas de. Oui, il y a pas de sous-titre. C'est Power.
Power. Les coulisses du pouvoir, du coup, de Sidney Lumet, c'est celui avec
Richard Gere.
Richard Gere. Voilà, c'est ça. Exactement.
Et Gene Hackman. Et Kate Upshaw. Et surtout un jeune qui débute. Enfin, il est pas débutant. On est encore en 87. Mais il a un jeune comédien dont on va reparler plus tard. Qui s'appelle Denzel Washington.
Qui s'appelle Denzel, effectivement. Mm. Et oui, et c'est une histoire.
Je crois que c'est son premier gros film, hein, Denzel. Hein.
Alors 86, parce que du coup le truc là, le Glory, c'était pas avant.
Glory, non, Glory, c'est après, je pense.
C'est après, ouais.
Ah, Glory, c'est la fin des années 80.
Ah ouais, okay, d'accord. Tu vois, moi, Glory, quand je l'ai revu il y a pas si longtemps, voilà, ça me paraissait. Ça faisait très très typé années 80 et je pensais que c'était avant quoi.
Rappelons-le, Denzel Washington, un film dans sa filmo, un seul. 3, 2, 1, Equalizer.
Equalizer, c'est vrai.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler à la fin de l'épisode.
Tout à fait.
donc tu l'as vu là par contre.
Voilà, effectivement, Power, qui est une histoire de conseiller politique, en fait, de lutte de pouvoir, mais surtout dans les coulisses, on va dire.
Il y a déjà eu des films exactement pareils. Je me souviens pas de. Je crois qu'il y en avait un avec George Clooney et Ryan Gosling.
Et Ryan Gosling, ouais.
C'est un peu le même genre de film.
Bah, en fait,
c'est les films de coulisses d'élection.
Comment il s'appelle justement, parce que c'est un film de George Clooney aussi en fait. Et c'est Les Marches du Pouvoir, celui avec Clooney. À bien des écarts, en fait, Les Marches du Pouvoir est une relecture en fait du film de Sidney Lumet en fait. Un peu modernisé, etc. Voilà, puis avec. Ouais, filmé par George Clooney, donc. Pas forcément avec le même talent que Lumet, hein, sans vouloir être méchant, mais bon, c'est dur en même temps de boxer dans la même catégorie Sidney Lumet.
Et en même temps, les gens ils s'imaginent que Sidney Lumet et tout ça, c'est un film un peu différent. Lumet à ce moment-là, il fait des films ultra politiques et pas du tout commerciaux. Je sais pas si Daniel,
je crois que c'est un peu avant, non, ouais. Mais c'est à peu près la même période.
Voilà,
hein, de toute façon,
c'est des films ultra conscients, ultra politiques. Et il n'a pas peur de s'engouffrer là-dedans, surtout. Enfin, c'est ça qui est c'est incroyable de la part de ce réalisateur, c'est qu'il se décide de prendre une voie assez compliquée et Je sais pas si tu aimes Power, mais vas-y, vas-y, explique peut-être le film d'abord.
Bah, du coup, voilà, c'est l'histoire de donc de deux conseillers politiques qui sont
Richard Gere
qui sont à la base d'anciens camarades, même plus en fait. Enfin, tu comprends que c'était des types extrêmement extrêmement soudés fut l'époque, et qui là se retrouvent en fait dans une espèce de d'affrontement, on va dire. Bah, alors ils vont pas se taper dessus, hein, attention, mais voilà, d'affrontement moral vis-à-vis de leurs convictions, puisqu'ils vont se retrouver dans des camps opposés, et que ben ils vont avoir une vision du monde qui va diverger, puisque chacun va défendre un candidat, voilà, au bout du spectre politique de l'autre, quoi.
Et vas-y.
Non, vas-y.
Non, vas-y, dis-toi.
Non, mais voilà, et du coup, voilà, on va voir, en fait, on va voir la politique politicienne, comme s'amusent à dire beaucoup les politiques politiciens. Généralement, ceux qui sortent, c'est la phrase de la politique politicienne, tu sais que c'est ceux qui vont avoir un truc très très creux à dire derrière, quoi.
En général, politique politicienne, tu sais que c'est Jean-François Copé.
Voilà, c'est ça, exactement.
Vous faites le jeu de la politique politicienne. Et en général, tu sais que... Pendant 3 minutes, il va rien te dire. Tu sais que c'est du foutage de gueule.
Exactement. Exactement. C'est exactement ça.
Je le connais. Mon gars.
Et qu'est-ce que je disais ? Oui. Et donc du coup, voilà, ils vont, enfin, on va se retrouver dans ces coulisses-là, puisque va y avoir un conflit qui va éclater entre, je crois que c'est Richard Gere au début, et Denzel Washington, qui plus ou moins marche sur ses plates-bandes, en fait, parce que il est expert en relations publiques ou un truc comme ça, enfin plus ou moins le même métier que lui, et du coup ils vont un peu se marcher dessus, et de fil en aiguille, voilà, ils vont se monter une espèce de rivalité. Et avec un enjeu, je crois que c'est un poste au Sénat, je crois que c'est ça, hein, c'est une élection de sénateur. Voilà, tout le jeu de Richard Gere, c'est d'essayer de tirer son épingle du jeu pour faire gagner son candidat de cœur, mais en même temps, du coup, lui, ben, aussi accéder au pouvoir par procuration, d'une certaine façon, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont pas... la tête de gondole, mais qui en fait en réalité tire les ficelles en coulisses et ont autant, si ce n'est peut-être même plus, de pouvoir que les gens qui sont élus, quoi.
C'est House of Cards avant l'heure.
Oui, bah complètement, ouais.
Et il y a un truc, et ça c'est c'est le style aussi des lunettes quand même, c'est que il refuse de rentrer dans une dichotomie. Ah, c'est des gens, je pense que c'est aussi ça la grande force du film, de ce film-là, par rapport à celui de George Clooney, c'est que il refuse de faire « Ah, les gentils sont vraiment... » Alors certes, Richard Gere, c'est le point de vue, c'est notre point de vue, quoi. Mais il refuse d'être trop « c'est blanc, c'est noir ». En fait, tu vois, il n'est pas trop manichéen, quoi.
En fait, le truc, c'est qu'effectivement, l'enjeu, finalement, déjà, l'enjeu de la couleur politique des candidats, il est pas important. C'est-à-dire que, finalement, on voit que c'est une façade, en fait. Ce qui intéresse les Lumettes, c'est pas le côté républicain contre démocrate, parce que ben, c'est globalement quand même le schéma de la politique américaine. Ce qui était un peu l'écueil dans lequel tombaient, justement, les marges du pouvoir, où très clairement, le personnage qui était incarné par George Clooney, tu voyais exactement quel idéal démocrate il était censé incarner. Là, c'est quand même beaucoup cet aspect vraiment premier degré de la politique américaine est vraiment mis de côté, et ce qui intéresse, c'est plus le jeu de pouvoir en tant que tel, en fait. Effectivement, c'est comme tu as dit, le côté House of Cards, où globalement, finalement, la couleur politique du personnage n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que si le mec, en fait, il est si bon dans son domaine, c'est que il n'a aucune hésitation à utiliser les autres comme des marchepieds. Et tout le truc de Power, c'est que ce personnage, donc le personnage de Richard Gere, ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans un tel automatisme et dans une telle efficacité de lui-même. Et là, pour le coup, le casting de Richard Gere à cette époque-là, forcément, ça fonctionne hyper bien parce que voilà, il a ce côté, ce côté très sûr de lui. On est après Pretty Woman. Oui. C'est l'acteur qu'il faut pour incarner ce genre de personnage.
On est après Pretty Woman, t'es sûr?
On est après, on est avant. Si, c'est 80. Pretty Woman, c'est quoi?
Pretty Woman, j'avais pas 10 ans, je pense. C'est pour ça que. Là, je viens de vérifier, on est en 86, c'est Pretty Woman.
Ah oui.
C'est 90, ouais.
Ouais, c'est ça, Pretty Woman, c'est après. Mais on est au moment de l'ascension, enfin, c'est-à-dire que voilà, on est quand même au moment où Richard Gere, c'est le mec du moment. Parce qu'American Gigolo, c'est pareil, c'est pas trop dans, enfin c'est plus ou moins dans les mêmes eaux aussi, enfin tu vois, on est quand même voilà au sommet, donc. Pour incarner ce type de personnage, on fait pas mieux à ce moment-là. Et justement, cette espèce de trajectoire qu'il va avoir de se dire, mais à un moment donné, là, il y a un grain de sel dans ma mécanique hyper bien huilé, puisqu'il essaie de jouer un peu sur tous les tableaux. Enfin, il essaie de gagner, en fait, quel que soit l'idée, c'est que quelle que soit l'issue du vote, il soit gagnant d'une façon ou d'une autre, quoi. Et globalement, quand il va se frotter à Denzel Washington, il va se rendre compte que la mécanique va se huiler, parce qu'en fait, il va tomber sur quelqu'un qui va pas forcément jouer les mêmes règles que lui, et c'est là qu'il va se rendre compte que globalement la personne qu'il est devenu, ça soulève quelques questions éthiques, pour le moins.
Il y a une scène que j'adore, moi, évidemment, c'est celle de Denzel. On voit pas beaucoup dans ce film là mais il a une scène où il est vraiment où il prend Richard Gere de haut, alors que Richard Gere, il a quand même plus de... Et il est en train de lui faire, hey, « Hé, Coco, qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux jouer à mon jeu, il faut être prêt à y mettre du tien, quoi, tu vois ?» Et c'est une scène ultra provoque et tout. Et là, tu vois quand même le proto-Denzel Washington. Tu vois la personne pour qui on est allé voir Equalizer, quoi.
Exactement.
Et c'est assez intéressant parce qu'il sait jouer les tueurs, Denzel, mais il sait aussi jouer les tueurs politiques. Et c'est un peu ça, hein. C'est un film sur les tueurs politiques. Et quand tu vois ce film-là, tu comprends aussi ce qui peut se passer de manière moderne. Alors, je ne veux pas utiliser les mots, des gros mots, enfin dire... Bon, Macron. mais tu vois tous les, toute la
attention,
cour,
très gros mots. Voilà,
ouais, mais tu vois la cour qui l'entoure et tout ça qui est là.
Bien sûr,
mais... C'est vraiment... C'est des mecs qui sont en train de jouer aux artificiers en lui disant « Hey, on va lui suggérer de faire une dissolution. » Et tu sais quoi ? Et il y a un peu de ça. Il y a un peu de... Il y a un peu de gens qui jouent avec le feu de la démocratie, quoi.
Ah bah complètement. C'est effectivement... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans les rouages qui, en fait, que nous, on ne voit jamais. Dans les rouages qui font que globalement qu'est-ce qu'à un moment donné qu'est-ce que ça veut dire presque du trafic d'influence d'une certaine façon, en fait, puisque ces gens-là vont utiliser le politique comme un levier, finalement, pour juste leurs ambitions personnelles, et la plupart ne vont même pas s'en cacher, et ils sont tous à un degré plus ou moins élevé, assez problématique à leur façon, et tout le monde se fait extrêmement plaisir. Et tu l'as dit, Denzel, il est déjà très très fort.
Gene Hackman, et on n'est pas habitué à voir Gene Hackman comme étant le... Parce qu'il a un point de vue moral aussi, Gene Hackman, dans ce film-là.
Gene Hackman,
on pourrait croire qu'il joue toujours les fils de pute. Pas du tout.
Ouais, et Gene Hackman, effectivement, il va être un peu le pas la soupape, mais en fait la personne vers qui Richard Gere va se tourner pour essayer de mettre un peu d'ordre moral dans ce qu'il est en train de faire. Sauf que justement, la situation, pour la première fois, enfin plus ou moins pour la première fois, lui échappe, et en fait le naturel va reprendre le dessus. C'est à dire que le naturel, ça va être servir ses intérêts, et chacun va essayer de servir ses intérêts. Et en plus il y a un détail qui est important à noter, mais c'est que c'est un excellent film de moustache.
Ah oui, puis de moustache.
Ils ont tous une moustache. Denzel, Gene et Richard, ils ont tous une moustache. Voilà.
Et tu sais qui devait jouer le rôle de Richard Gere au début ?
Non, pas du tout.
C'était Burt Reynolds.
Ah bah
donc,
oui.
Tu vois. C'est, ils ont dû se passer le mot. Il y a juste un truc, c'est que je trouve que le film devient un peu théorique au bout d'un moment.
Bah en fait, oui.
C'est-à-dire qu'il y a des montages et des machins, genre, ok, qui sont là, te resituer le monde d'aujourd'hui et tout, qui sont un petit peu pas rébarbatif, mais tu vois, c'est un fait un peu.
Bah, disons que
je sais pas comment dire, mais un peu film socialisme, tu vois, ce genre. Voilà, c'est
ouais,
genre,
on est
là pour te faire un petit peu à la Hughes de l'époque.
En fait, le film, effectivement, est sans doute trop long pour. Trop long pour son propre bien. En fait, c'est tout le paradoxe finalement de Power, c'est que c'est un film dans ses meilleurs moments. Ils sont vraiment, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire effectivement, ses meilleurs moments, il y a quelques joutes verbales qui sont vraiment top. Celle entre Denzel et Richard Gere, effectivement, quand il débarque dans son bureau et que Denzel il est assis sur un espèce de bureau complètement immaculé et que derrière t'as le Capitole dans son truc et qu'en fait Richard Gere comprend que en fait il a pas affaire à un rigolo globalement. Il y a cette scène-là, il y a la scène où où il y a une espèce de dispute entre lui et Gene Hackman qui fonctionne hyper bien. Voilà, t'as quelques moments clés comme ça où vraiment bah le talent de Sidney Lumet est intact parce que bah, filmer des montées en tension dans un espace clos, c'est quand même sa spécialité et ça fonctionne super bien. Le truc, c'est qu'effectivement et c'est un truc qui que tu as retrouvé dans pas mal de films de ces années-là chez Sidney Lumet, en fait, les années 90-80, c'est que il va faire beaucoup de paraphrases, de périphrases, et beaucoup il va beaucoup prendre le soin de d'expliquer ou de décortiquer certains trucs, et ce qui fait que ça va donner un film qui va bah, du coup être daté, c'est-à-dire qu'effectivement il y a on perd un peu la portée universelle et ça fait une focus une focale qui est finalement peut-être trop resserré sur spécifiquement la vie de Washington dans les années 80. Et c'est un souci dans le sens où ben, on perd en portée un peu universelle. Et puis ça a tendance effectivement un peu alourdir le film. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'il a fait dans les années 70, par exemple, on pense à un film comme son film sur la télévision Network. Voilà, comme Network, où en fait Network, t'as une espèce de crescendo dramatique.
On n'a pas ça. Moi je trouve ça très théorique, hein.
Voilà, on a une espèce de crescendo dramatique à la fois dans l'écriture, à la fois dans l'arc des personnages, la façon de les jouer et le montage d'une manière générale. Là on est sur un truc au contraire, justement, c'est que le film a des très très beaux temps forts, mais en fait passé un certain moment il va un peu s'appesantir sur lui-même et il va se délayer, en fait. Il va se délayer. Voilà ce qui faisait la force d'un 12 hommes en colère aussi. Si tu regardes la façon dont 12 hommes en colère est monté, par exemple, là, on est complètement à l'opposé, en fait, de cette technique-là. Alors, je comprends aussi l'idée pour lui mettre de ne pas se réfugier tout le temps dans les mêmes procédés, etc., de changer, mais c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé dans ces années-là, dans son cinéma, ce côté où il y a des temps forts absolument fabuleux, où il a une espèce de voilà, le talent de lui mettre pour diriger les acteurs et pour découper une scène de dialogue, enfin il est fabuleux pour ça, mais en même temps il y a beaucoup de films de ces années-là où globalement il va pas réussir à garder cette espèce de niveau de soit de tension ou d'intérêt sur tout le long. Tu prends par exemple des films comme Le Prince de New York, voilà, ou Family Business.
Le Prince de New York, non, pas Le Prince de New York, il s'appelle en français Prince de New York.
Oui, le prince de New York, pas le King of New York.
Pas le King Prince of City.
Voilà, Prince of the City, voilà, ouais. Prince of the City, le film avec Treat Williams.
Mais est-ce que moi, tu me dis Prince à New York ? Moi, j'ai entendu Prince à New York. Donc
ah oui, non, non. Le Prince de New York, le film avec Treat Williams sur la corruption policière, etc. Ou Family Business, qui va réaliser avec Dustin Hoffman et Sean Connery. Voilà. On souffre, et Al Capone souffre un peu tous de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments hyper forts, mais qui vont un peu se perdre dans un film qui aura tendance à se diluer et qui, je pense, en fait, aurait mérité d'avoir un montage plus resserré quelque part. Mais à chaque fois, il va essayer de tirer sur les deux heures et au bout d'un moment, on va plus avoir cette tension, on va avoir des personnages qui vont un peu stagner aussi. Et à chaque fois, enfin, en tout cas, c'est le cas dans Power, c'est le cas dans les autres, le dernier acte, à chaque fois, je le trouve vraiment, vraiment beaucoup moins intéressant que que ce qu'il y avait avant, quoi, par exemple.
Je suis dans ma vie. On va peut-être le classer.
Oui.
C'est pas le meilleur film de la décennie, mais quelle décennie, encore une fois, pour CD.
Eh ben oui.
Alors, je regarde, il y a Prince of City, Death Trap, The Verdict, Daniel, Garbo Talk, Power, The Morning After, Running on Empty et
Family
Business. On l'a classé, Running on Empty, ou pas?
Je crois qu'on en a parlé. Donc, c'est à bout de course en français.
À bout de course.
Ça me dit quelque chose.
Mais on en parle souvent parce que c'est un film qui compte beaucoup pour moi, en tout cas.
Et un film, alors pas du tout politique à bout de course. Hein. Alors là.
Ah, il est. Ah, ouais, attends. Oui, il est 20e.
Il est 20e.
Il est 20e. Juste ça. Et pour plein de gens, ça serait un film mineur, mais moi, vraiment, c'est un film que j'adore. Ouais, je trouve passionnant. Bah écoute, on va peut-être classer.
Bon, déjà, c'est moins bien qu'à bout de course. Hein.
Oui, c'est moins bien qu'à bout de course. C'est pas inintéressant du tout, hein. Attention.
Non, c'est pas du tout inintéressant. Et c'est ça qu'il y a de marrant, parce que c'est comme beaucoup de films de Lumet, ça reste quand même un film qui est hyper intéressant quand on s'intéresse au langage cinématographique. C'est que vraiment, certaines scènes, quand tu prends le temps de regarder comment est-ce qu'il. Il construit sa mise en scène et comment est-ce qu'il utilise le découpage et le montage. Ce qui pourrait être un téléfilm aux yeux de certains, parce qu'effectivement c'est juste des gens qui discutent dans des couloirs. C'est un côté pré-Aaron Sorkin en fait.
Et très sûr de tous.
Ouais, et des personnages tous très sûr d'eux, etc. Ce qu'il arrive à faire avec un dispositif aussi simple, le talent de ses lumettes, il est là. Le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à le maintenir sur tout le film, en tout cas dans celui-ci, quoi.
Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que c'est moins bien que. Que la chèvre.
Elle est où la chèvre?
101e.
Bah moi je dirais que c'est moins bien que le solitaire de Michael Mann par exemple. Mais on n'est pas très très loin, tu vois.
Il est où, il est où?
Le solitaire, ah, FIF, ouais. 110. Tu vois, je préfère le Père Noël est une ordure. Aucun rapport, mais mais on n'est pas très loin, tu vois.
Parce que... Alors moi, je vais te donner un truc.
Ouais.
Je peux pas le mettre au-dessus de Kiki.
Il est où, Kiki?
125e. Je pense que Kiki, je préfère Kiki.
Ah oui. Kiki... Bah, en dessous de Let of the Hero, quand même, si. Voilà. Après, question philosophie.
Je préfère le déclin de l'Empire américain. Mais
je préfère Black Rain.
Ok, mais au-dessus de Bagdad Café.
Ok, alors ça marche.
Ouf, on y arrive. Ouais, il est 130e. Hein.
Il a été disputé, celui-là.
Ouais. Les coulisses du pouvoir, c'est ça?
Oui, c'est ça, Power, ouais. Je crois que même le titre entier, c'est Power, les coulisses du pouvoir, je crois. En plus, je crois qu'il y avait un truc comme ça.
Et Pouvoir, les coulisses du pouvoir.
C'est ça.
Steph, bah écoute, on a fini ce podcast ou pas?
Non,
tu veux encore une liste.
Hein. Bah oui, on va quand même pas finir comme ça, attends, c'est pas possible. Ouais.
Bah écoute, j'ai trouvé une liste pour toi. Attends.
Oh là là.
Il faut remercier la personne qui l'a donnée. On remercie Maxime Stoll pour sa liste.
Merci Maxime Stoll pour ta liste. Et puis effectivement, je vais essayer de voir Mishima assez vite parce que pour le coup, j'ai toujours envie de le voir. Donc du coup, ce sera l'occasion.
Alors, c'est une liste. C'est une liste de. Qui nous est envoyée par. Je dis son nom, c'est Lionel Durour.
Merci Lionel Durour pour ta liste.
Merci pour ta liste. C'est une liste qui s'appelle Les Dents de la Mouche 4.
Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une liste qui va pas forcément contenir beaucoup de films qui vont aller très très haut. Mais bon, après, c'est peut-être un préjugé.
C'est un préjugé, je pense, mais ça se voit que t'aimes pas les films d'horreur, c'est tout.
Oui, c'est ça, sans doute.
C'est des films d'horreur des années 80.
D'accord, ok. Alors, les dents de la... très, très très bon titre, hein. Ceci dit, Les Dents de la Mouche 4.
Je sais pas dans quel ordre les prendre, alors je vais en prendre. Je vais être random. Je vais juste évacuer Spookies.
Spookies, oh là!
Tu l'as vu?
Ouais, alors je l'ai vu, mais.
Parce que j'ai pas vu Spookies.
T'as pas vu Spookies? Ah, ça... Moi, en fait, Spooky, c'est un film dont j'ai beaucoup vu la bande-annonce. Et en fait, l'astuce, c'est que quand la cassette, on avait réussi à mettre la main dessus.
Je sens l'astuce. Oh là là, ça va être super.
Non, mais l'astuce, c'est qu'en fait, c'est un film que j'ai vu par morceaux. C'est-à-dire que j'ai jamais vu en entier, mais j'ai vu la première demi-heure, j'ai vu la dernière demi-heure, j'ai vu un peu du milieu. Et en fait, voilà. Mais je suis pas sûr que le fait de voir le film en entier, ça améliore tant que ça l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est un film très particulier, quoi.
Mais écoute, je l'ai noté en devoir de vacances, je l'ai pas vu. Et bah écoute, tu m'encourages à le voir quand même.
Bah, disons que
moi j'essaye de faire les devoirs de vacances. Moi.
Voilà, c'est ça. Non, mais Spooky, c'est une expérience. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un film. C'est comme dit encore une fois, je suis pas sûr d'avoir, en termes narratifs, d'avoir loupé énormément de choses, de l'avoir vu en morceaux. Tu vois, voilà, c'est pour te dire un peu le truc.
Non, mais il y a des films comme ça. Tu te dis, ah bon, c'est pas grave et tout ça, machin. Mais ouais. Là, peut-être que tu veux le revoir, peut-être.
Oh, mais je pense que je jetterai un œil dessus, ouais. À mon avis, dans mon souvenir, en plus, c'est pas très très long. Enfin, c'est voilà, ouais. C'est pas très très long. Donc effectivement, je pense que j'essaie de le revoir pour la prochaine fois. Ça peut être marrant.
Le deuxième film, et je pense que tu l'as vu. Ah, on va encore parler de nazis, c'est étonnant.
C'est la thématique. Bah, oui. C'est la mode en ce moment. Hein.
Oui, c'est un film qui s'appelle Devil Nazi, tout simplement. Pardon, Devil Story. Pardon, j'étais pas loin. Devil Nazi. Tu sais, dans ma tête, j'étais bloqué sur les nazis.
Mais alors, effectivement, il y a un nazi dedans, effectivement, dans Devil Story. Il y a un nazi avec un shotgun.
Et ce n'est pas. Et c'est pas. Et qui a été édité par Nanarland, je crois, en plus.
Qui a été édité par Nanarland. Et je crois même que c'est notre compère Martin Gamera, donc, qui fait avec moi Godzilla Final Postcard. Je crois même que c'est lui qui a dirigé l'édition de ce film-là chez Nanarland.
Je crois que c'est lui, ouais. Bah, ouais. En tout cas, voilà. on en avait parlé. Il était très fier du résultat. Tu sais comment il est quand il est très fier.
Bah, il est de droite déjà. Voilà, je sais comment est-ce qu'il est.
Et c'est un classique du nanar.
À cheval du diable.
Donc tu l'as vu. Alors c'est l'histoire d'un monstre habillé en SS.
C'est ça.
Qui arrive en Normandie.
En Normandie, c'est ça. Et qui tue des gens.
Voilà.
Il y a une histoire d'automobiliste qui tombe en panne.
L'auberge.
D'auberge. À un moment donné, il y a une momie aussi. Faut suivre. Faut suivre. Et une histoire de. Et l'auberge est maudite aussi. Voilà, l'auberge est maudite parce que ça, c'est quand même important de savoir parce que il y a des momies, il y a des nazis morts-vivants. Mais il y a une auberge maudite aussi.
C'est un film qui a des défauts.
oui, il a des défauts. Il a des défauts. Alors, déjà, il paraît que son réalisateur, donc Bernard Launois, est un personnage, comme on dit dans le milieu.
Ça veut dire qu'il est difficilement gérable. C'est ça que ça
voilà,
veut dire.
C'est-à-dire que c'est une personne difficilement gérable et qui apparemment tu aurais difficilement. Ce serait compliqué d'assumer de l'avoir invité à une soirée projo, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, c'est un type un peu particulier voilà, qui a fait son film dans son coin. C'est un vrai nanar dans le sens où c'est un film fauché de A jusqu'à Z. Par exemple, notre monstre nazi que tu vois sur l'affiche et qui sert de fil rouge un peu à cette histoire. D'une scène à l'autre, il n'a pas forcément toujours le même maquillage ou quoi que ce soit. Ils le font se balader dans les paysages normands. Tu sais pas trop pourquoi. Il assassine des gens, mais qui. c'est ça qui est génial, c'est que parfois, en fait, la conscience justement de la mise en scène et du montage est assez limitée parce que tu vas voir parfois des plans sur les victimes en train de saigner, mais tu vas les voir ostensiblement respirer alors qu'ils sont censés être morts. Voilà, c'est des trucs comme ça. Le raccord entre les scènes parfois n'a strictement aucun sens. Voilà, c'est un film. Très très.
Ça, c'est un vrai nanar.
Ça, c'est un vrai nanar, faut venir armé. Et surtout, ce qui en fait vraiment le talent du nanar, c'est que. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces problèmes de comme j'ai dit, de continuité, de montage, de mise en scène. évidemment de direction des comédiens. Voilà, il y a des gens qui meurent où tu te dis, bah finalement, Marion Cotillard, c'était pas si mal. voilà.
Elle en a parlé cette semaine.
Ah ouais, bah tu vois,
elle
je
en
suis
a
dans
parlé,
l'actu.
Elle a dit, ouais, c'est vrai que c'était pas le top de ce que j'ai fait. C'est sûr, mais tu sais quoi, t'es pas la seule fautive, meuf.
Ah non, non, mais clairement, pour moi, le problème, il est... Enfin, pour le coup, je crois qu'on en a déjà parlé. Pour moi, le coup, c'est à quel moment Christopher Nolan, il garde cette prise-là, quoi. Pour moi, le problème, il est là, quoi. C'est, voilà. Donc, revenons à Devil Story. Mais ce qui est génial, ce qui en fait vraiment un nanar d'exception, c'est que plus le film avance, et plus c'est psychotronique. C'est-à-dire que, déjà, dès l'intro, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, l'intro, c'est vraiment une mise en bouche. C'est-à-dire que le film va avancer et va être de plus en plus non-sensique, de plus en plus psychotronique, avec cette scène où, par exemple, l'automobiliste, qui d'ailleurs, je crois, est joué par Bernard Lenoir lui-même, tombe en panne et il cherche de l'essence, et là il voit un nazi mort-vivant avec un couteau et il lui dit bonjour mon bon monsieur, est-ce que vous auriez de l'essence? Enfin, tu vois, c'est vraiment de ce niveau-là. Et plus ça va, et en fait ça part complètement en cacahuète jusqu'à ce qu'on arrive à cette séquence finale où il y a un type pendant 3 minutes en train de tirer au fusil pour essayer d'abattre le cheval du diable. Voilà, et ça dure vraiment genre t'as 3 à 5 minutes où t'as des plans de coupe sur un cheval qui passe et le mec qui tire au pif sur les falaises d'Etretat. Enfin, vraiment ça a vraiment aucun sens. Et puis d'un seul coup, t'as un bateau qui apparaît sur la plage, et puis là, il y a une momie, et en fait, puis là, c'est la fin du film. Et voilà. Et faut le voir pour le croire, quoi. Faut le voir pour le croire. Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a cette volonté de faire un vrai film gore, c'est-à-dire voilà, avec du sang, de la tripaille, etc. Où tu vois quand même
mais avec zéro moyen.
Voilà, avec zéro moyen.
Zéro moyen et... Bah, je dirais pas zéro envie, mais genre, ça manque... Il manque clairement des maquilleurs et des trucs et des...
Voilà, c'est non seulement les heures moyens, mais en plus, surtout, il y a zéro capacité à essayer de tirer parti de ces faibles moyens ou de masquer ces faibles moyens. C'est-à-dire que, littéralement, en fait, à un moment donné, t'as un type qui se finit éventré par la momie, et tu vois clairement qu'ils ont juste pris de la chair à saucisse du boulanger du coin et qu'ils l'ont mis sous la veste pendant que la momie est en train d'appuyer sur la veste pour faire sortir le truc. Enfin, tu vois, c'est vraiment de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de enfin, le degré de réflexion en termes de mise en scène et de préservation de l'illusion cinématographique, pour dire ça gentiment, voilà, on est sur le degré c'est ça, on est sur le degré zéro du truc, quoi. Mais par contre, effectivement, c'est un film, plus il avance, plus ça n'a aucun sens, et c'est ça qui le rend un peu magique à sa façon, quoi.
Je pense que ta lettre d'amour est passée.
Ah oui, c'est effectivement, faut le voir pour le croire. Moi, je te jure, la première fois que je l'ai vu, je me souviens parce qu'en plus, je crois que c'était justement Martin qui m'avait. C'était un mardi. Je crois que c'était Martin qui m'avait donné le DVD en me disant, tiens, au fait, on a des invendus, ça t'intéresse et tout. Moi, j'ai dit, bah évidemment.
Allez, aujourd'hui, ça vaut des milliards maintenant.
Bah aujourd'hui, ça vaut des milliards, voilà. Mais tu vois, comme quoi, c'est un mauvais gars de droite. Il a pas compris la richesse du produit. Le moment où t'as un galion qui est échoué sur la plage en Normandie, tu sais, j'ai fait pause, j'ai fait, mais attends, est-ce que je suis en train de regarder ce que je suis en train de regarder, quoi. Et tout est magique. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je sais pas si tu te souviens de comment l'héroïne qui d'ailleurs passe un bon tiers du film en nuisette.
Bien sûr.
Évidemment. Je sais pas si tu te rappelles de comment est-ce qu'elle se débarrasse de la momie à la fin.
Mais c'est un accident, non? Un truc comme ça?
Non, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire qu'il bon, y a toute une histoire. Je vous ai parlé du cheval du diable, etc. Bon, en gros, il y a des gens qui meurent, il y a des choses comme ça. Il y a la momie qui retrouve sa fiancée, un peu façon monstre de Frankenstein. Enfin, c'est pas bien clair. elle s'en va vers le soleil couchant. La meuf, donc en nuisette, récupère le fusil à pompe du mec qui chassait le cheval du diable. Et là, tu sais, tu la vois viser la momie. Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, elle se déporte sur la gauche, comme pour viser un truc sur la gauche, et là, t'as un mouvement de caméra, je m'en rappellerai toute ma vie. Ou donc, t'as la momie qui s'en va, puis la caméra fait un panneau sur la gauche, et s'arrête, et t'as là des tonneaux qui sont là, tu ne sais pas pourquoi, avec marqué powder. Tu sais pas, des tonneaux d'explosifs, et elle tire dessus, ça explose. Cut, on se retrouve dans une scène qui n'a rien à voir, où la nana se réveille dans la chambre de son hôtel. Voilà. Et c'est absolument merveilleux, quoi. C'est absolument merveilleux.
C'est un classique.
C'est un classique. Et voilà, et plutôt que de filer des légions d'honneur à Bernard Arnault, c'est à Bernard Lenoir qu'en fait que Emmanuel Macron devrait filer des légions d'honneur pour ce genre de truc, quoi.
Et en plus, c'est quand même des nazis. Donc voilà.
Oui, et en plus, on tue des nazis. Enfin, avant, le nazi tue quand même beaucoup de monde, hein, globalement.
Où est-ce qu'on va classer
où est-ce qu'on va
classer? C'est mieux que Surf Nazi Must Die.
C'est plus fun, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. C'est que je suis pas sûr que d'un point de vue technique, ce soit vraiment mieux. Mais en fait...
Non, et en plus, il y a plus d'acteurs en jeu.
C'est ça. Mais ça reste plus fun, en fait. C'est moins chiant. Même s'il a ses coups de mou quand même, hein, David Story, il a ses coups de mou, etc. Vers le milieu du film, en fait, à un moment donné, quand ils sont dans l'espèce de d'auberge hantée, etc., tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais par contre, le crescendo final est exceptionnel, quoi.
Je mets ça mieux que... Est-ce que c'est mieux que Cobra?
Ah, je sais pas. Je mettrais ça au-dessus de Superman 4, en fait.
Tu sais quoi? J'allais dire, on met au-dessus de Superman 4.
Voilà. Entre Superman 4 et Firefox. David Story.
Et là, je te propose un dernier film. Attends, David Story, du coup, il est... David Story est 269e.
Et ben voilà, la belle place.
Et bon, toutes les places sont belles. Et
ça, c'est beau ce que tu dis.
Quelle place va-t-on... Oui, je prépare le dernier. Quelle place va-t-on laisser à un film d'une série qui compte... celui-là, c'est le 4e épisode. Et je te préviens, on n'a pas vu les autres. Enfin, on n'en a pas parlé. Peut-être ça va pouvoir parler d'un film sans... comme on aime bien le faire. Est-ce que tu as vu Les Dents de la Mer 4?
Alors, Les Dents de la Mer 4, full disclosure, je l'ai vu. Par contre, je suis incapable de te dire si c'est une scène, si c'est celle du 3, du 4 ou du 2, en fait.
Est-ce que tu veux qu'on se le regarde?
Ah ouais, je pense qu'il faut le regarder parce que je les ai tous vus, en fait.
Celui-là, c'est avec Mario Van Peebles.
C'est celui avec Mario Van Peebles, donc c'est pas celui... d'accord. C'est pas le 3D, c'est Jaws 3, en fait, c'est ça?
Ah... Tu me demandes trop. Disons que mon expertise en film de requin s'arrête à Dents de la Mer partie 2 quand même. Ouais, mais attention, attention, parce que le 3 n'existe pas dans la chronologie officielle.
Oui, c'est ça, le 3,
c'est celui qui est... il n'existe pas, c'est pas un reboot, mais c'est genre un Elseworld.
Dans le
multiverse.
Dans mon souvenir, effectivement, le 3, c'est le Jaws 3D, c'est celui avec Dennis Quaid, si je me souviens bien. Et le 4, c'est celui qui s'appelait Dents de la Mer 4, La Revanche. C'est bien ça, hein, si je me trompe pas, quoi.
La Revanche, exactement. Bien
voilà. Et qui est effectivement avec Michael Caine et qui reprend qui fait un soft reboot en disant ouais, on va reprendre l'histoire.
On l'avait laissé aux deux.
Comme si les gens avaient quelque chose à foutre de ce qui se passait enfin tu vois ce que je veux dire, à un moment donné voilà, c'est à peu près tout ce que je me rappelle, parce que globalement ce qui se passe à l'intérieur du film, pour moi Dents de la Mer 2, 3, 4, même si c'est méchant parce que le 2 dans mon souvenir est quand même bien meilleur que le 3 et le 4, mais globalement c'est pour moi les films qui tout se brouille, en fait. Enfin, je suis plus capable de dire que de discerner Dents de la Mer 4 du Dents de la Mer 3.
Moi je me souviens d'un détail, c'est que celui-là ça se passe aux Bahamas et en fait je crois que le requin à un moment il traverse tout le monde entier pour retrouver sa cible,
pour aller les chercher,
pour aller c'est peut-être sa cible, et genre là tu fais danser, c'est pas possible.
Voilà, donc non, faut clairement le revoir, parce que surtout qu'à l'époque, enfin les films Dents de la Mer, je les avais vus, je les avais tous vus, et je les ai vus plusieurs fois d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu sais, c'est un peu l'image justement de la dentition du requin, c'est un tapis roulant, tu sais. C'est-à-dire que quand tu avais fini Dents de la Mer 4, oh bah il y avait le premier qui revenait, donc tu voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au fait, au bout d'un moment, quand tu regardes 12 fois
Ah, il y a Michael Caine dans celui-là.
Oui, il y a Michael Caine, ouais, tout à fait. Quand tu regardes 12 fois la tétralogie les Dents de la Mer entre 10 et 14 ans, au bout d'un moment, ça fait un espèce d'embroglio où tout est pareil.
Il faut voir un truc, c'est que ces films-là, et ils sont nuls, hein, on va vous le dire, ça n'a pas réussi à entacher les Dents de la Mer. Qu'un jour, on va le voir, hein, on est d'accord, Stéphane?
Alors, peut-être un jour, on parlera des Dents de la Mer, peut-être.
Ouais, ça fait encore partie des petits doudous qu'on n'a pas classés. Écoute, je mets Dents de la Mer 4 en devoir de vacances.
Ouais, parce que là, très clairement, je serais incapable.
Moi, c'est juste à un moment, ils sont... C'est ouf, mais genre, ils disent, mais le requin, il les suit à l'autre bout du monde, quoi.
Oui, parce que non, mais c'est ça, parce que le titre s'appelle La Revanche, c'est même pas une blague, c'est-à-dire que c'est vraiment l'argument du film, c'est que le requin, il est vénère, il se venge de la famille de la famille Brody, en fait, du chef Brody du premier Dents de la Mer, quoi. Et déjà, rien que ça, quand t'es producteur, à quel moment tu te dis que ça va être une bonne idée? Enfin, tu vois, c'est...
Je vois pas. Écoute Stéphane, on a classé des films, on a classé des films d'horreur. Je sais que tu es très très demandeur de films d'horreur, surtout en cette période de Saint-Valentin.
C'est vrai.
Est-ce que tu as une recommandation?
Alors, j'ai une recommandation, évidemment, j'ai deux recommandations. Alors, le truc, c'est qu'il y en a une, vous allez voir, c'est une recommandation que tu as déjà faite, mais c'est pas grave. Et l'autre, c'est surtout une double recommandation. Donc, je commençais par la recommandation que tu as déjà faite et on va passer vite, mais c'est Dynasty Warriors Origins, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant sur à peu près tous les supports possibles et imaginables, et qui est donc un retour au firmament de la licence Dynasty Warriors. Donc Dynasty Warriors, pour ceux qui ne remettent pas, c'est ce qu'on appelle un beat'em all bigger than life, puisque comme dans tous les beat'em all, tu vas être dans une arène à taper des gens, sauf que des gens tu vas les taper par milliers, mais vraiment, quand je dis par milliers, t'as un compteur de chaos.
Quand tu passes à 1000, il est content, mais quand tu passes à 2000, t'es encore plus content.
Voilà. Et en fait, voilà, c'est basé, encore une fois, très lointainement, hein, sur l'histoire sur la légende des trois royaumes. Donc en fait, l'unification de la Chine avec les trois royaumes sous l'égide de Cao Cao, c'est un truc qui est très présent dans la culture chinoise. D'ailleurs, John Woo, comment ça s'appelait, Battle of the Red Cliff ou un truc comme ça, je crois que c'était son film.
Il est en deux parties, non?
Oui, voilà, mais je sais plus le titre, je crois que c'est Battle of the...
Bah là, ça s'arrête à Red Cliff, justement.
Voilà. Red Cliff, en fait, c'est cette histoire-là, faite au cinéma par John Woo. Et donc là, c'est une version japonaise, sous la forme d'un beat'em all, où tu vas avoir toutes les figures historiques de l'époque, évidemment un peu stylisées de façon pour coller à l'esprit même d'un beat'em all. Et en fait, tout le truc, c'est que, enfin, moi, j'avais Dynasty Warriors, c'est une licence qui est née sous PlayStation 2, je crois, ou un.
Ouais, PlayStation 2.
PlayStation 2.
En fait, il y a une astuce, c'est que c'est né sous un jeu de baston sur PS1, et ensuite ils ont fait d'abord c'est né sous forme de jeu de baston en 3D, et ensuite ils ont fait une version voilà. Beat'em all, et c'est à partir de ce moment-là qui naît le style Musso ou Dynasty Warrior, c'est-à-dire un mec contre une armée de 10 milliards de mecs, et le but étant de prendre du plaisir à envoyer valdinguer 20, 30, 40 mecs en même temps.
Voilà, exactement. Et donc voilà, moi j'avais joué, je crois que tous les opus PS2, je crois que je les ai tous faits à l'époque. Puis après, bon, je me suis un peu lassé, parce qu'il faut dire que la formule avait tendance à être un peu tout le temps la même. Au bout d'un moment, alors il y a eu des variations sans doute, mais du coup, voilà. Et là, je suis content de revenir à cet épisode-là, parce que, du coup, pour moi, ça fait un œil vraiment frais, parce que voilà, ça fait 10 ans sans Dynasty Warriors pour moi, et que globalement...
Il n'y en a pas eu pendant 8 ans.
Ah bah voilà, donc tu vois, finalement, je n'étais pas si...
De vrai Dynasty Warriors, il y a eu des Zelda, mais c'est...
Oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu la déclinaison de Zelda Musso, effectivement. Et donc, je suis content, parce que déjà, je trouve le gameplay est vraiment sympa avec le... Voilà, avec le en fait, si vous voulez, le scénario, on va suivre un personnage qui, pour le coup, est un personnage pas du tout historique, qui va être ce qu'ils appellent une sentinelle de la paix. Bon, alors, sentinelle de la paix qui, quand même, l'aide des gens, hein. Enfin, faut pas oublier. Voilà, c'est une version de la paix un peu à la George Bush. Mais une sentinelle de la paix qui va, en fait, participer aux événements fondateurs de l'unification de la Chine, mais qui va pas rester dans l'histoire. Voilà. Et en fait, en gros, tu vas traverser ces paysages et rencontrer tous ces personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de te filer, ben ouais, tu vas diriger Liu Bei, tu vas diriger Cao Cao, tu vas diriger Guan Yu. Voilà, ils sont tous là, mais tu vas pas les jouer, tu vas jouer à côté d'eux. Et en fait, tu vas apprendre à vraiment tous les connaître vraiment depuis le début, depuis la révolte des turbans jaunes. Tu vas apprendre à tous les connaître un à un, tu vas te mettre au service d'un, au service d'autre, tu vas rencontrer, tu vas discuter. Et en fait, le jeu va mettre en fait beaucoup de temps à arriver à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire la confrontation des trois visions du monde incarnées par les trois leaders des trois royaumes. Et je trouve que ça fonctionne super bien, enfin surtout pour moi qui effectivement, comme je connaissais tout le lore, je connaissais tout le truc, etc. Et je trouve que cette façon de redécouvrir un peu, de se réapproprier ces personnages et cette narration, etc.
Et de redécouvrir presque.
Ouais, et de redécouvrir effectivement, je trouve que ça fonctionne bien en fait. Et il y a vraiment un truc où globalement, sur les premiers épisodes PS2 où tu choisissais ton personnage un peu en fonction de son style, là il y a vraiment un truc, alors c'est évidemment pas, on n'est pas dans de la littérature, voilà, c'est pas non plus du Balzac ou quoi que ce soit, mais...
Le bouquin original est quand même chouette, hein.
Ouais, non mais je parle là du jeu, évidemment.
D'accord,
je parle. Je parle du jeu, voilà. En termes d'écriture, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez simplifié, etc. Mais je trouve que c'est plus la narration, c'est-à-dire que le fait que on va vraiment s'intéresser aux personnages, voyager avec eux, les voir évoluer, les voir changer, etc. Et voir les différents rapports de force qui vont se nouer. Et donc le jeu va mettre en fait très longtemps avant d'arriver là où t'en veux, c'est-à-dire à cette confrontation et à finalement suivre l'histoire du point de vue d'un des trois camps majeurs en fait. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui fonctionne très très bien, parce que voilà, quand t'arrives et quand les événements commencent à s'enchaîner, c'est-à-dire la discorde la discorde qui va naître entre eux, les oppositions, puis l'affirmation de chacun, la révolte de Loubou, etc. Et ben je trouve que t'es vraiment plus impliqué qu'à l'époque, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, et en tout cas, moi j'avais la sensation de choisir en pleine conscience mon camp à ce moment-là. Alors évidemment, le jeu va te permettre par la suite de revivre l'histoire en choisissant d'autres embranchements dans l'histoire, mais je trouve que voilà, c'est à la fois pour quelqu'un qui connaît pas du tout la licence. C'est une bonne porte d'entrée finalement, parce que ça va pas forcément le choquer d'incarner un personnage, un avatar pour le coup, puisque c'est le seul personnage qui parle pas, d'incarner un avatar qui va rencontrer des légendes, etc. Et à la fois, je trouve, pour quelqu'un qui connaît vraiment bien le truc, ben, je trouve que c'est une bonne variation en fait, et c'est un bon moyen de revivre et de redécouvrir une histoire qu'on connaît vraiment pour le coup par cœur, parce qu'au bout de 18 jeux, on finit par savoir un peu ce qui se passe.
Oui, et je trouve, tu sais qui va perdre.
Tu sais qui va perdre, tu sais qu'à un moment donné, quand t'as tel personnage qui arrive, tu sais, ah ok, d'accord, je sais où ce qui va se passer. Quand ils disent, ah, on va aller à tel endroit, on va faire telle bataille, tu connais l'issue, voilà. Mais le point de vue, enfin en tout cas ce point de vue narratif qu'ils apportent là fait que ben t'es content de le redécouvrir, tu le redécouvres autrement, et je trouve que c'est pour le coup, c'est une vraie bonne surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas. Je faisais confiance pour le renouvellement du gameplay, globalement, qui fonctionne très bien, enfin, ça reste hyper jouissif, c'est hyper fluide aussi, c'est-à-dire que...
Ah, il n'y a pas de ralenti, techniquement, c'est vraiment...
Techniquement, c'est hyper shadé, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, mais vraiment des milliers de soldats à l'écran, et ça ralentit jamais. Donc
et
ça,
les
c'est,
scènes
ça, c'est
de
super.
Bataille, parce qu'il y a les escarmouches, il y a des batailles, mais les scènes de grosses batailles, quand t'as un vrai boss, une grosse stratégie, et que tu rejoins la troupe et qu'ils te disent « Allez, on y va tous !» et que tu sens tout le j'allais dire
l'impression,
le stade,
quoi.
Tu sens le champ de bataille vibrer avec toi au milieu qui fonce, un seul parmi des milliers, c'est extraordinairement jouissif, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, à ce sujet, c'est que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, ou en tout cas, enfin, qui est pas assez ancré, on va dire, dans l'imaginaire public, mais c'est que, donc, effectivement, tu t'incarnes un type qui va tabasser littéralement des milliers de gens avec son bâton, son épée, whatever, mais c'est que, effectivement, les grandes batailles, il y a un aspect stratégique qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que t'as la carte de la bataille, et on t'expose des stratégies au début, tu sais, en gros, quel est le plan de départ, à peu près. Tu sais où commence chacun, et dans le lot, tu as des objectifs clés et surtout des personnages clés. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages dans ta troupe qui ne doivent pas perdre, sinon tu perds toute la bataille. Et évidemment, ils sont rarement avec toi. Voilà, ils sont généralement à l'autre bout de la bataille. Et en fait, tout le sel de Dynasty Warriors, au-delà de taper sur les mecs, c'est d'être capable de bien lire le champ de bataille sur ta carte et avec les alertes qui apparaissent à l'écran pour pouvoir, à un moment donné, prendre la bonne décision. C'est-à-dire, ben, là, tant pis, par exemple, ce point de contrôle, ce point de ravitaillement, je vais l'abandonner, tant pis, ça va permettre aux ennemis d'avoir des renforts, parce que effectivement, à l'autre bout, il se passe une situation critique, et si j'y vais pas, en fait, ça va mettre en péril toute la bataille. Et ça fonctionne super bien, c'est-à-dire cette espèce de stress permanent que t'as de courir à droite à gauche et d'essayer d'être là au point stratégique pour essayer de d'influencer la bataille et de rentrer dedans. Voilà, c'est hyper galvanisant et voilà, je m'attendais pas à prendre autant de plaisir. Enfin, je savais que j'étais plutôt confiant sur le fait que j'avais aimé, mais je trouve cette version Origins vraiment réussie.
Et il y a plein de petits détails que j'adore, le fait que tu puisses entraîner les armes à chaque fois. Le fait qu'il est intéressant de changer d'arme. Et ça, oui. c'est un vrai truc différent avec Musso. C'est que Musso, tu choisissais un personnage avec une arme. Et là, maintenant, bah, tu peux changer d'arme toi tout le temps parce que tu as la mémoire. Tu te souviens que tu tapais avec cette arme. Tout d'un coup, il y a le souvenir, la mémoire de la baston. C'est vraiment bien, bien foutu, ce truc. Et tout d'un coup, tu dois t'entraîner à utiliser l'arme que t'as d'entre les mains. Et du coup, tu as des jauges qui augmente au fur et à mesure, et t'as une espèce de jauge globale, et vraiment, le build-up est super. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi.
Et même, un aspect qui est intéressant, c'est que dans les batailles, tu pourrais être accompagné par un des héros, donc pas forcément le chef de l'armée, mais un de ces héros, et t'as et que tu peux, selon certaines conditions, incarner temporairement un de ces héros. Et en fait, le fait d'avoir ce côté striker qui va débarquer, striker de luxe, avec son panel de coups, avec la surpuissance de ses coups, parce qu'effectivement, quand il tape pas à moitié, ça donne le côté un peu mystique des personnages, bah, se construit aussi à travers le gameplay sur le champ de bataille. Et c'est assez malin comme astuce aussi, quoi.
Bah écoute, donc c'est Dynasty Warrior Origins, vous l'avez compris, c'est un de nos premiers, moi en tout cas, c'était un de mes premiers coups de cœur de l'année.
Pareil.
Et moi je vais finir avec une reco, mais en même temps, c'est une reco, je pense, commune, parce qu'on en a parlé. Je t'ai dit, Stéphane, à un moment, il faut que tu regardes quelque chose.
C'est ça, c'est vrai.
Je t'ai dit, il faut absolument que tu regardes le documentaire de Vincent Lindon, qui est disponible en ce moment sur Arte.
Exactement.
Et j'ai oublié le nom, ça s'appelle Cœur Sanglant, je crois.
Cœur Sanglant, c'est ça.
Et c'est un documentaire réalisé bizarrement un peu par lui, parce qu'il y a j'allais dire du found footage, non, c'est lui-même qui se filme, mais avec des moments de pure introspection, filmés par le mec qui réalisait des documentaires, je crois, sur TF1, c'est Thierry Desmazières. C'est, oui. Voilà, donc c'est Thierry Desmazières, c'est le mec qui faisait les interviews un peu sensibles de 7 à 8. Et il connaît son affaire, en fait, pour mettre le Vincent Lindon dans les bonnes conditions pour le faire parler. Et Vincent Lindon, dès le début, il a un rant incroyable où il dit: voilà pourquoi vous allez me détester, et il liste ses défauts.
Ouais.
Et il dit: pour moi, c'est des qualités. Et il liste ses défauts et il a l'air infect. Dès les premières minutes, c'est un mec qui ne rigole pas. Et en fait, au fur et à mesure du documentaire, tu vois qu'il a énormément de souffrance. Il a énormément de souffrance et que tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est une manière d'oublier le fait qu'il souffre. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas.
En fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire que vraiment, on est à mi-chemin entre Fucking Kassovitz et Some Kind of Monster, donc le documentaire complètement hallucinant sur Metallica. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un format qui... qui n'est pas de la rétrospective, qui n'est pas de la géographie, voilà. On est sur quelque chose où on va vraiment chercher la personne, en fait. Et Vincent Lindon s'y prête, et en fait, et il le redit à plusieurs moments, voilà, il se prête à l'exercice, mais sans aucun filtre.
C'est très étonnant, hein, parce qu'il trouve, par exemple, une vieille ordonnance d'un médecin qui dit, le médecin qui dit, il n'a pas eu son compte affectif, tu vois, c'est genre, c'est très bizarre, et d'exhumer ça, et en plus, de mettre en branle toute sa vie, en fait, parce qu'il en parle, et en même temps, d'être un mec passionné de cinéma. S'il n'y a aucun doute là-dessus, tu sais, il est passionné de cinéma, et il n'a qu'une seule affiche de film chez lui, c'est pas un de ses films, c'est Rocky. Vas-y, Stéphane, qu'est-ce que tu voulais rajouter ?
Non mais voilà, et effectivement, c'est, ce qui est hyper intéressant, c'est que globalement, on ne va pas passer la filmographie de Vincent Lindon au crible, et d'ailleurs, il le dit en fait, ouais, être acteur, ça me fait chier. Être acteur, ça me fait chier, vous parlez du métier acteur, ça me fait chier, j'ai pas envie d'en parler, ça m'intéresse pas. Donc tout ça, on ne va pas le faire en fait, mais en fait, à travers le portrait de ce type et de sa relation qui va quand même, malgré lui, décrire par rapport à son boulot et à sa vie, et ben ça en fait au contraire un super portrait d'acteur. Et effectivement, je trouve c'est assez saisissant sur ce que ça dit du cinéma comme échappatoire, en fait. Voilà, c'est que pareil, il va dire, ouais, les mecs qui me disent comment on pense le personnage, je m'en fous, dis-moi juste comment est-ce qu'il est habillé et où est-ce qu'il va, et puis je m'occupe du reste, quoi. Donc effectivement, il a plein de remarques comme ça où il est insupportable, et en même temps, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se crée, et je trouve que au final ça en fait un portrait qui est vraiment hyper intéressant, hyper profond et assez attachant, parce que globalement on a quand même affaire, enfin c'est un truc qui au final, moi, Vincent Lindon, il m'a apparu, oui, insupportable et tout, mais on l'est tous, enfin je veux dire, on a tous voilà, il y a un côté assez humain qui se détache de tout ça. Et je trouve que à travers le montage qui est fait, les choix narratifs qui sont faits, on creuse vraiment cette question de Vincent Lindon ne veut pas nous parler de son cinéma, entre guillemets, mais en fait, en réalité, on va en parler quand même. Voilà, sa relation, quel type d'acteur il est, finalement, ça va être le documentaire via la narration et le montage qui va s'en occuper. Et il y a des moments d'anthologie assez dingues. Moi, le moment qui me fait chavirer, c'est quand il dit t'as vu Equalizer ? T'as vu Equalizer ? Et franchement, ce film, c'est un chef-d'œuvre.
Et il a fallu qu'il dise les mots, quoi.
Voilà, franchement. Et là-dessus, j'étais là, mais oui, Vincent, on est tous avec toi. Et cette phrase, il fait, ouais, si j'avais fait carrière aux États-Unis, un rôle comme ça, c'est sûr, j'en aurais eu. Mais en France, jamais j'en aurais.
Et tu sais quoi ? Il a raison.
Bah, il a raison.
Il a raison. Et le truc qu'il trouve que Equalizer, c'est un film génial, c'est fabuleux. C'est vraiment, et qu'il y a vraiment un film sur lequel il parle plus d'Equalizer que de Titan. Parce que Titan, oui, est nommé, parce que c'est au moment de Titan, on parle beaucoup.
Ouais, ça se passe au moment où Titan est nommé et où lui va devenir président du jury.
Voilà,
de Cannes.
C'est une grande période quand même pour lui, mais en même temps, il joue dans des films, et les films d'auteur, enfin, qu'il joue, les films, tu sens que la vie politique le passionne. Et en même temps, il cache pas le fait qu'il est infect aussi par moment.
Bah oui, bien sûr. Ouais.
Et qu'il est infect quand on te relit cette interview, il dit qu'il a viré une maquilleuse parce qu'il a dit wow, j'ai pas envie d'être là. Et tu sais quoi, c'est sa vie, elle a pas envie d'être là, peut-être, tu vois. Et
Vincent
Lindon, tu sais, il est genre une espèce d'intransigeance incroyable. Et il revient aussi sur ses tics, sur son syndrome de la Tourette, qui lui ont valu de harcèlement pendant son enfance. Et ensuite, au fur et à mesure, il se dévoile sur son enfance. Et il dit des choses tellement, tellement dures sur l'enfance. J'avais pas entendu ça de quelqu'un qui témoigne sur son enfance depuis très longtemps. Alors qu'il se passe pas des... Il s'est pas fait brutaliser. Mais c'est... À un moment, toi et moi, on a un point commun. C'est que nos parents, maintenant, ce sont des souvenirs dans nos têtes. Et on doit avoir affaire à ça tous les jours. Et maintenant... Et lui aussi, c'est la même chose. Mais le bilan qu'il fait dans sa tête... Et ce qu'il en fait comme énergie pour essayer d'aller de l'avant dans la vie me terrifie. Me terrifie, je me dis comment il fait. C'est vraiment, ça doit être très très dur. C'est pas du tout un ego trip, je trouve.
Non, moi, j'avais lu effectivement le mot qui était sorti. Je suis pas d'accord parce que. Alors oui, il est au centre du truc, etc. Mais en même temps, il est pas. C'est ce que je disais, c'est que par exemple, tu prends un documentaire qui est absolument génial, mais dont à un moment donné, tu es sur la limite. Tu prends The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan et la dernière bague des Bulls, c'est une série documentaire pour le coup, mais qui est vraiment génial. Mais sauf qu'à un moment donné, tu sens ce point de pivot où Jordan il a fait non. Là, on va s'arrêter et on n'ira pas plus loin, tu vois. C'est ce que je veux dire. Tu sens ce truc où il commence à creuser, où globalement, il se remet un peu en question. Il fait ah, en fait, j'étais peut-être un gros connard à l'époque. Oui, Michael, c'est fort possible. et globalement, c'est abordé, mais genre, l'espace de 20 secondes, mais après, on va repasser sur la légende. Et ce point de rupture-là où Vincent Lindon, il dit jamais stop, en fait. C'est-à-dire que tu sens quand même, et c'est ça que je trouve intéressant.
Au contraire, il met le truc à profit pour sa vie lui-même.
Voilà, il y a aucun moment où Vincent Lindon va dire non, ça on va pas le dire parce que sinon je vais passer pour un abruti. Visiblement, il s'en fout, et même je pense qu'il a besoin en fait que ça sorte en fait. Il a besoin qu'à un moment donné, moi je l'ai compris aussi comme ça, c'est quelqu'un puisse à un moment donné lui apporter des réponses qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a plein de moments où il te parle le truc et il va te dire, mais là, ça va peut-être vous paraître horrible, mais moi, voilà comment je fonctionne. Son anecdote qu'il a, par exemple, avec Martin Sheen, tu sais, où il lui explique ce que c'est qu'une choucroute au restaurant, et lui dit, en fait, à l'issue du truc, moi j'étais
dégoûté. Non, c'est Michael Douglas.
Oui, ouais, il lui explique à Michael Douglas que c'est une choucroute, et il fait, en fait, moi, j'étais dégoûté, Michael Douglas m'a pas reconnu. Et en fait, il dit ça, et tu sens qu'il a conscience qu'en fait, il passe pour un abruti en disant ça, et en même temps, il a besoin d'en parler parce que c'est ce qu'il ressentait, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est sa vie, c'est comme ça qu'il fonctionne, quoi. Et je trouve justement, enfin, je trouve le film hyper intéressant et hyper touchant. Et enfin, moi, je trouve ça bien plus intéressant d'avoir ce type-là qui a, voilà, qui est ce qu'il est. Et je pense qu'effectivement, je vivrais pas avec lui. Enfin, hein, je pense qu'on se taperait dessus.
Mais tu sais quoi ? Mais j'en ai parlé parce qu'une fois, je t'avais raconté cette histoire où il est arrivé devant l'école où j'étais.
Oui,
il était. C'est une anecdote dans un des précédents Super Ciné Battle. Désolé pour le lore. À un moment, Vincent Lindon est venu et passé devant mon école. Il s'est fait insulter par un élève. Et Vincent Lindon s'est retourné et il est venu devant nous. On était genre une vingtaine et il s'est pas démonté. Et il a fait la morale au cum. Et j'ai vu le plus grand. J'avais pas précisé ça quand j'ai écouté, mais le plus grand. Il s'appelait Flavien. Le mec, gros lâche, il a dit oh non, mais on va pas le dénoncer, hein. C'était lui. Et tu sais quoi, et le mec il s'est pas démonté. Aujourd'hui je le croise et je lui reparle de ce moment là et genre je me suis dit putain, j'aimerais bien être ce mec là quoi. À ce moment là je me suis dit ça doit être, et on avait un débat parce que mes potes ils disaient mais non, il aurait dû laisser couler, ils s'en fout. Non, il peut pas laisser couler. C'est un mec qui peut pas laisser couler.
C'est un mec qui peut pas laisser couler.
Il est pas comme nous, il peut pas laisser faire.
Et ouais, et donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment passionnant, enfin vraiment voilà, vraiment
c'est
passionnant émouvant en fait.
À la fin, j'ai pleuré.
Non mais
j'ai pleuré la conclusion comme elle arrive. Je fais ah, j'ai pas pu genre il m'a cueilli quoi, et j'ai encore envie, j'y repense, c'est genre c'est à la fois tellement de souffrance et d'empathie que j'ai pour lui à la fin, et arriver à un tel niveau que genre j'ai envie qu'il trouve une solution quoi.
Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, moi, enfin pour moi voilà, moi je trouve que c'est un type complètement imparfait, mais en même temps il y a vraiment quelque chose qui se dégage, et puis c'est malgré tout, au-delà de sa simple personnalité, il y a aussi voilà, quelque chose qui se dégage sur le pouvoir du cinéma quelque part, en fait. C'est que ce type-là, sa seule façon de se canaliser, c'est sa relation au cinéma. Et pas au cinéma en tant qu'acteur, et c'est ça qui est génial, c'est au cinéma vraiment en tant que, comme tu le dis, en tant que
qu'activité.
Voilà, qu'activité comme de façon globale, quoi. Mmh. La scène où, enfin, pareil, t'as la scène où il fait son sport en récitant par cœur la Tekken. incroyable.
C'est extraordinaire.
Extraordinaire, quoi.
En plus, Tekken, quoi.
Oui, en plus Tekken, quoi. Voilà, mais. Donc voilà, non, vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, c'est. Enfin, pour moi, c'est vraiment. comme ça que devrait être un documentaire, etc. Enfin, là, on,
mais
on est...
y a un parti pris d'auteur et de journaliste là-dessus qui est,
bah oui, et puis
qui est incroyable. Et ils ont le matériel assez incroyable.
C'est ce que je veux dire. Et surtout, ils ont le matériel de fou. C'est-à-dire que là, effectivement, la chance qu'il y a eu, il y a effectivement le talent de la mise en scène et de l'écriture du réalisateur, ça fait aucun doute. Mais en plus, il a eu un accès illimité à son sujet. Et ce qui, là, pour le coup, il y a des fois, tu peux pas forcément toujours l'avoir, etc. Ouais. Et là, il a su s'en saisir et à faire un véritable objet passionnant, quoi. Voilà. Et voir ce genre de documentaire à ce niveau-là, moi, je trouve ça vraiment kiffant, quoi.
C'est sorti fin janvier. C'est disponible sur le site d'Arte. Et c'est un des films les plus extraordinaires que j'ai vu cette année.
Ouais, bah en tout cas pour l'instant c'est mon, j'ai pas vu beaucoup de films de 2025 mais c'est mon préféré, voilà.
Ah voilà. Donc c'est vraiment je trouve ça brillantissime et ça me donne envie de boire un thé avec lui ou un café ou je sais pas ce qu'il boit mais il va dire non moi je bois de la grenadine.
Bah non, on le voit boire du vin. Il a quand même a priori des habitudes de
oui, de
vin rouge.
Ouais,
voilà.
Quand même il boit du vin rouge. Mais il est bien entretenu hein, comme tu vois le sport qu'il fait le matin.
Oui, c'est vrai, c'est sa petite routine.
Bah voilà, ça sera tout pour notre épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Super Ciné Battle,
c'est vous.
Merci de nous soutenir sur patreon.com/RPU. Encore une fois, on l'a dit à la fin. Un jour, on va le dire au début. Hein,
mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voudrait que Vincent Lindon vienne le dire. On enregistre un jingle et on le passe au début.
Salut, voilà. C'est Vincent Lindon.
Salut, c'est Vincent Lindon. Alors,
j'ai la voix de Café Malongo.
on a mélangé Richard Bourget et Vincent Lindon.
Franchement, Vincent, on t'aime. Moi, après ça, je peux que l'aimer. Je veux pas passer des vacances avec, mais...
Mais tu sais ce qu'il se répondrait, Vincent Lindon, quand tu lui diras que tu l'aimes? Qu'est-ce que ça peut me foutre?
Moi, je m'aime pas, et j'ai pas envie que... Non, à un moment, il dit, moi, je veux qu'on m'aime, mais j'aime personne. Et genre, d'avoir une telle franchise, c'était assez incroyable, quoi. Donc ça aurait été l'épisode où on a parlé aussi de Surf Nazi Must Die et
aucun lien.
Et je remarque que tu sais pas compter puisque t'as mis l'épisode 223 alors que c'est l'épisode 222.
Ouais mais je suis déjà dans le futur.
Ouais non mais on vous remercie tous de nous suivre, merci, ça nous va droit au cœur et merci de nous soutenir sur patreon.com/RPU. On a bien besoin pour produire ce podcast et Stéphane, je te remercie.
Ben, merci Daniel, merci à tous.
On a passé un bon moment. On a prononcé très souvent le mot nazi, bizarrement, dans cet épisode.
Oui.
Encore une fois, tu marques un peu ton territoire de... Alors que c'était qu'un salut romain.
Alors que globalement, c'était juste un petit cœur avec les doigts. Voilà, on est peu de choses quand même. On est vraiment peu de choses. T'es là, tu veux faire un petit cœur avec les doigts et d'un seul coup, ça dérape.
Allez, pour voilà, la peine, tous les gouvernements américains vont s'équiper de Tesla Bunker. Bon allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao à tous.
Bon, j'espère que tu seras réceptif à ma liste parce que j'ai pas de liste de secours.
J'ai pas de plan B. Non. Comme dirait Emmanuel Macron, il n'y a pas de planète B.
Non, il n'y a pas de plan B, ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais.
Une production RPU.